Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Podzol, le podcast du gravel et du bikepacking, épisode 119, ici Richard Delhomme. Aujourd'hui est un grand jour car j'ai réalisé mon rêve. Certains rêvent de faire le tour du monde, d'aller en Alaska ou de rencontrer leur idole. Moi, je rêvais de discuter avec une cycliste qui serait un mélange de voyageuse, compétitrice, professionnelle utilisant le vélo, mais également avec un petit côté, comment dire... Disons que se faire attaquer par des volatiles, poules, perdrix ou gallinacées diverses, ça n'arrive pas à tout le monde. Et donc aujourd'hui, je suis comblé, car Baptistine Smets regroupe toutes ces caractéristiques à un niveau que je n'imaginais même pas. Encore un épisode rocambolesque donc, où Baptistine nous raconte son travail de transport avec un vélo cargo, mais également son goût pour le voyage à vélo, ses expériences, succès et échecs sur des épreuves bikepacking, mais également sa passion naissante pour le gravel. Tout ça avec l'humour caractéristique de nos amis belges. Et sans plus attendre, donc, Baptistine Smets. Donc, j'en déduis que tu t'appelles Baptistine. Parce que pour moi, tu étais juste un bulic dans la ville. Mais là, j'en déduis au prénom. Ou alors, c'est un pseudo que tu t'es inventé. Peut-être parce que c'est le prénom que tu as donné à ton vélo à force de traîner sur Twitter avec Justine Virido, t'as fini par donner un prénom à ton vélo, à ta bicyclette même plutôt.
Non, c'est juste la marque du vélo en fait. Non. Donc c'est le vélo cargo que je roule pour le travail en fait, c'est un Bullitt. Et comme je voulais faire un peu mystérieux comme ça, tu vois, style un Indien dans la ville, eh ben c'est un Bullitt dans la ville, donc c'est un vélo qui est déjà un peu différent des autres, mais qui en même temps qui est là sans être là. Et donc voilà. Alors ça fonctionne pas très bien parce qu'évidemment on me reconnaît en rue vu que le vélo est tellement particulier. mais voilà.
Et qu'est-ce qu'il a de particulier à part que c'est un cargo? Parce qu'au bout d'un moment, un cargo, c'est un cargo, c'est volumineux. Ou alors tu transportes des trucs étonnants, palmiers, éléphants.
Alors on n'a jamais fait des éléphants, mais des mini palmiers, on a déjà fait donc pour le boulot. Et ce qu'il y a, c'est que à Bruxelles, c'est quand même pas si répandu que ça. Il commence à en avoir de plus en plus, mais chez nous, on a plus une explosion des long tails. Donc tout ce qui est Yuba, Bike for Tree, ça on en a vraiment de plus en plus, et donc ça les gens commencent à avoir l'habitude. Mais les vélos cargo, c'est vraiment encore plus ou moins réservé, on va dire, aux gens qui travaillent avec ce type de vélo là plutôt que des particuliers. Moi j'en vois de plus en plus, mais j'ai l'œil pour ce genre de choses et je capte tout de suite les vélos différents. Et alors à Bruxelles on a aussi beaucoup les Urbanaro, et donc fatalement le Bullitt c'est quand même pas tout à fait la même chose parce qu'il n'y a pas la grosse boîte. Et donc, il n'a pas cette massivité, on va dire, ce mode camion directement par rapport à un Urbanaro, quoi.
Alors là, je suis désolé, mais tu m'as perdu. Moi, entre les long tails et les Urbanaro, je suis désolé, mais pour que je comprenne, il va falloir que tu numérises en XT500 et que tu convertisses en bipolaire, parce que sinon, je ne vais pas comprendre. Donc, c'est là où tu m'expliques ce qu'est un Urbanaro et un long tail.
Oui, alors allô, je Baptistine. Te perds parfois de temps en temps.
Ah, d'accord.
Des bouts de phrases. Je sais, j'avais compris que je t'avais perdu avec tous les noms que j'ai balancés.
Ouais, exactement, c'est exactement ça. Mais tu sais quoi ? Je peux l'annoncer dès maintenant, mais j'ai une méga nouvelle. J'ai deux méga nouvelles en fait. C'est que bientôt je vais avoir la fibre, donc adieu les problèmes de réseau. Je croise les doigts, mais a priori dans 2-3 semaines on a la fibre. Donc là ça va dépoter grave. Je vais enfin pouvoir télécharger du porno, donc ça c'est vraiment cool. Et également, bah là, on n'a pas réussi ce soir et j'ai pas non plus réussi à midi avec un autre invité. Mais maintenant les podcasts, autant que faire se peut, vont se faire également en visio, en passant par une nouvelle plateforme. Et du coup, je pourrais aussi les mettre sur YouTube. Donc ceux qui ont plus l'habitude de traîner sur YouTube et de regarder ou d'écouter un truc avec un onglet par-dessus, pourront découvrir les nouveaux invités à partir de dans 2-3 semaines, je pense. Semaines.
Top. Tu vas envahir une nouvelle plateforme.
Ça va être. Non, parce que pour envahir YouTube, il faudrait qu'on s'y mette à plusieurs, mais en tout cas, c'est une petite évolution, tu vois, parmi d'autres qui arriveront à la rentrée. Je peux pas non plus balancer tous les scoops, mais effectivement, à la rentrée, il y aura une ou deux. Attends, combien ? Ouais, au moins deux nouveautés, quoi.
Deux
petits trucs. Donc, il faut. Je suppose que toi aussi, tu évolues dans ton travail et que tu proposes pas la même chose que tu proposais quand t'as débuté.
Ah oui, il y a le travail.
Ta manière de faire. Je t'ai coupé, vas-y.
Non, c'est parce que travail. Comme toi, t'es un peu coupé, je ne sais pas si t'es en train de finir ta phrase ou pas, mais oui, mon travail a bien évolué. Donc, déjà principalement, donc moi, ça fait 4 ans et demi que je fais les livraisons en vélo cargo. Et il y a 4 ans et demi, on parlait quasi pas de vélo électrique, encore moins de vélo cargo électrique. Et donc, quand on transportait des bacs de bière et des choses comme ça, c'était vraiment à la force des mollets et on n'en faisait pas aussi souvent que ce qu'on en fait maintenant. Maintenant, on a des remorques, on tire des remorques et donc le métier a beaucoup changé. Et ici, par exemple, avec la crise du Covid-19, on a aussi beaucoup axé nos livraisons vers les particuliers qu'avant, on avait beaucoup plus des business. Et donc, fatalement, versus quand tu rentres dans un magasin en disant « Bonjour, c'est votre livraison de machin », versus tu dois attendre, déjà trouver la bonne sonnette dans le hall d'immeuble où il y a 4 immeubles qui forment un square et attendre que les gens descendent et tout ça, c'est pas du tout la même temporalité, c'est pas du tout la même rapidité non plus. Et donc le boulot a bien changé. On utilise aussi des applications maintenant de logistique. Et du coup, avant, on avait nos petites feuilles en papier où on notait. S'il pleuvait, c'était un peu la galère quand la feuille avait pris l'eau. Maintenant, c'est tout est dans le logiciel. On fait clic-clic, on prend la photo de quand on donne, on prend la signature et paf, et voilà quoi.
Et pouf.
Tout simplement qu'avant, c'était pas du tout pareil quoi.
Mais là, tu me dis, et c'est hyper intéressant quand même, c'est que tu as commencé il y a 4 ans et demi. Et il y a 4 ans et demi, je pense que je ne savais pas, c'est même sûr, je le sais, je ne savais pas ce qu'était un gravel. Moi, en tout cas, j'entendais pas parler de bikepacking. Et encore moins, j'entendais encore moins parler de cargo. Et on est, je pense, nombreux dans ce cas-là. Aujourd'hui, c'est du plus grand chic de faire un truc en cargo et de s'imaginer pionnier. Mais il y a 4 ans et demi, qu'est-ce qui t'est passé par la tête pour te lancer dans ce type de livraison? T'aurais pu être juste une messenger avec 10 ans de retard ou 15, mais t'aurais pu juste te contenter d'être messenger à vélo avec ton fixie, ta chaîne autour de la taille. Pourquoi?
Les sources du messenger, c'est les gars, ou plus rarement les filles, mais les gars qui roulaient un peu comme des tarés et qui faisaient beaucoup d'express, qui faisait des petits plis, des petits colis, des petites lettres. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que donc nous, le vélo cargo, il est dans la famille depuis quasiment 10 ans. Donc, c'est un vélo qui ne m'était pas inconnu, mais que je n'ai jamais monté dessus, par exemple. C'est assez comique. Il n'y a que papa qui l'utilisait. Mais moi, en fait, quand j'ai lancé ma propre boîte en 2016, j'avais besoin d'un job flexible qui me permettait de faire 10-15 heures en plus de travail par semaine pour mettre un peu du beurre dans les épinards. Et il y avait vraiment besoin de cette flexibilité parce que mon autre job, c'était aussi avec les week-ends et tout ça. Et donc, je ne pouvais pas m'enfermer dans un horaire bien précis. Et c'est naturellement que je me suis tournée vers tout ce qui est en cycle logistique à Bruxelles. Et ce qu'il y a, c'est que c'est beaucoup avec des vélos cargo. Et donc, je me suis tournée là-dessus. Je suis arrivée en disant « Salut, je suis intéressée pour 10 heures semaine. Je sais que ce n'est pas forcément... un horaire qui pourrait vous convenir, mais j'ai aussi mon vélo cargo, donc c'est un petit plus. » Et ça a séduit Dioxyde de Gambette, la boîte dans laquelle je suis toujours. Et voilà, ça s'est fait comme ça naturellement, parce que du coup, j'avais vraiment une flexibilité où je disais toutes les semaines quel jour j'avais besoin de travailler et combien d'heures je pouvais allouer à ça, quoi. Et donc, ça me permettait de faire varier en fonction de mon autre travail. Et on s'est bien trouvé comme ça, ça a bien fonctionné. Puis... bon, maintenant, ça a pris beaucoup plus de place parce que ma boîte à moi, comme c'est dans l'événementiel avec le Covid, ça a pas très, très bien fonctionné. Et du coup, maintenant, je suis salariée.
Ah bon ?
Ouais, c'est étonnant, hein ? Et voilà, et du coup, maintenant, je suis salariée chez des petites gambettes. Et en plus du vélo, je commence à prendre des responsabilités de dispatcheuse. Et donc, voilà, y a... le travail est toujours aussi flexible, mais je suis dans un horaire un peu plus fermé, on va dire, qu'avant. Mais j'ai plus besoin de autant de temps qu'avant pour mon autre activité. Et j'apprends des nouvelles choses. Je suis pas que sur le vélo, quoi. J'apprends aussi à préparer les tournées des autres, à réceptionner de la marchandise. Enfin, c'est... Du coup, c'est une variété dans le travail, quoi. C'est pas mal.
Bon, bah, je crois que là, c'est le moment où tu vas nous dévoiler, Baptistine, qui es-tu, que fais-tu, d'où viens-tu? Parce que, si j'ai bien compris, tu viens d'une famille où le vélo a quand même sa place. Alors, évidemment, t'es belge. Donc, c'est pas... Oui, t'es belge.
Oui, tout à fait. Je suis née à Bruxelles. J'habite à Bruxelles depuis toujours. Et si j'ai pas d'accent pour vous, c'est parfait. Pour ceux qui écoutent, si j'ai pas d'accent, c'est magnifique.
Non, t'as pas d'accent, rassure-toi. Oh, je m'en mal ce soir. C'est terrible. Bon, bah vas-y, du coup, qui es-tu, Baptistine? D'où viens-tu? Et est-ce que le vélo a toujours été dans le paysage familial?
Allô? J'ai entendu qui es-tu, d'où viens-tu? Allô, est-ce que le vélo... Et après, ça a coupé.
Et toujours dans le, a toujours été dans le paysage familial.
Toujours été là. Ok. Donc, moi, c'est Baptistine. J'ai 32 ans. Ouais, je crois que j'ai 32 ans maintenant, je ne sais plus. Donc, j'habite Bruxelles depuis toujours. Je suis née à Bruxelles, je vis à Bruxelles. Et le vélo, c'est une histoire de famille, on ne va pas se cacher. Mais c'est par phase aussi dans ma vie. Donc, je suis incapable de dire à quel âge j'ai appris à rouler à vélo, mais je pense que c'est comme tout le monde, quoi. Je sais pas, entre 5 et 8 ans, quelque chose comme ça. Je sais qu'on avait un petit vélo que mon grand frère m'a passé, puis que j'ai passé à ma petite sœur. On allait traditionnellement faire des balades le week-end, le dimanche, le samedi. On allait au parc à vélo, mais sans plus. Et la première phase, on va dire, de vélo dans ma vie, c'est quand j'ai eu 12 ans. Ce qu'il y a, c'est que je commençais une scoliose à mon dos et le médecin a dit « c'est parce que votre cartable, il est trop lourd, mademoiselle. » Ah, d'accord, mon cartable est trop lourd, mais comment est-ce que je vais à l'école sans porter mon cartable ? Et là, mon père, il a dit « si on t'achète un vélo, c'est le vélo qui va porter ton cartable. » C'est logique. Et c'est là qu'à 12 ans ou 13 ans, quelque chose comme ça, j'ai eu mon premier vélo à moi, parce que les autres... Je devais les partager et même celui que j'avais eu avant, j'ai encore partagé avec ma sœur. Donc, c'est vraiment à 100% mon premier vélo. C'était celui que j'ai eu à 12 ans qui m'a servi en fait à aller à l'école pendant un an. Et on avait installé une planche sur le porte-bagages pour mettre mon cartable. Et comme après, mon dos s'est amélioré, j'ai dit je vais continuer à faire du vélo. Mais en même temps, j'allais plus à vélo à l'école parce qu'il n'y avait pas de parking vélo. Et donc, il était dans la cour. Et donc, évidemment, tout le monde venait toucher le vélo parce qu'il y avait un seul vélo garé. Et quand on a 12-13 ans, c'est super chiant quand il y a tout le monde qui vient regarder ton vélo, machin, critiquer et tout ça. Enfin, voilà. Mais parallèlement à ça, j'avais commencé à faire de l'escalade. Et pendant toute mon adolescence, j'ai fait de l'escalade. Et du coup, j'allais 3 fois par semaine à l'escalade à vélo. Parce qu'il y avait cette liberté de ne pas devoir dépendre du bus. Et je pouvais y aller tout seul. Il n'y avait plus besoin d'un parent pour me conduire et surtout venir me rechercher. Et donc là, j'ai commencé. C'était un trajet qui faisait, je crois, 3 ou 4 kilomètres par trajet. Et donc là, pendant 8 ans, j'ai fait du vélo-escalade. Je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais voilà, j'allais au sport à vélo, quoi. Et mon père s'est mis à ce moment-là plus ou moins en vélo-taf parce que au lieu d'avoir 3 enfants à conduire à l'école, il n'a plus que ma petite sœur, qui a 4 ans en moins, donc ça faisait une grosse différence. Et elle a changé d'école et l'école se retrouvait sur son trajet pour aller au boulot. Et il s'est dit, en plus, les transports en commun, c'est quand même pas top sur cette ligne-là parce qu'il fallait changer une fois. Il mettait limite 45 minutes. Et là, donc, il a commencé, lui, à mettre ma sœur sur son vélo à lui. Il l'a amené à l'école et puis il allait au travail. Et donc, ça, c'est le vélo qui est arrivé au quotidien dans la famille. C'est on voyait papa partir avec la petite sœur sur le vélo tous les jours, du lundi au vendredi. Et puis, pendant les vacances, quand il ne devait plus conduire ma sœur, lui, il s'est dit, je vais commencer à faire un peu des balades à gauche, à droite. Et un jour, il est arrivé en disant, j'ai découvert qu'on pouvait faire des vacances à vélo. Et je ne sais plus comment il a découvert ça, mais nous, on était là genre, oui, qu'est-ce que tu racontes? Enfin, des vacances à vélo, où est-ce que tu mets ta tente? Où est-ce que tu mets ta cuisine? Et en fait, il avait trouvé la façon simple, entre guillemets, c'est que c'était un voyage organisé. Et donc, enfin, c'est organisé, mais il y avait quand même 150 cyclistes, donc c'est pas la petite organisation non plus. Et donc, il y avait une cuisine itinérante qui suivait tout ça. Et avec, ça dormait dans des halls de sport, mais c'était aussi un peu militant, donc il fallait aller voir les autorités locales pour dire ça vous faites bien, ça vous faites pas bien. Regardez, on peut se déplacer à vélo pendant l'année, mais aussi pendant ses vacances. Et il a fait, lui, il a testé une année parce qu'il se méfiait quand même un petit peu, il savait pas à quoi s'attendre. Et l'année d'après, il m'a emmené, et c'est comme ça qu'à 13 ans, ou l'été de mes 13 ans, quelque chose comme ça, ben moi, je me suis retrouvée à faire Bruxelles, Luxembourg-Ville, Strasbourg à vélo en 10 jours. En mode, c'est tout à fait normal, même si je ne sais pas ce que je fous là, quoi. C'est... Enfin, quand je... Cet été-là, quand je suis retournée à l'école en septembre, ah, t'as fait quoi de tes vacances ? Ben, je suis allée à Strasbourg à vélo. Ah, il y a eu quelques blancs. Et après...
Et là, tu t'es fait frapper ?
Non, non, ça pas, parce qu'ils avaient compris l'année d'avant, c'est la fille bizarre qui vient à vélo à l'école. Donc, ce qu'elle fait pendant ses vacances, ça doit être bizarre aussi, quoi. Enfin, tu vois. Quand t'es ado, c'est ce genre de commentaires que tu te prends. Et... En soi, j'ai appris à mon foot et j'étais là genre, bah, moi, je suis très fière de ce que j'ai fait, parce que il y avait un jour carrément où ils s'étaient trompés dans l'impression des cartes, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de GPS et de... Enfin, on ne parlait pas tellement...
Et oui.
À l'époque, il y a quand même déjà un bon 15 ans de ça, donc ouais, ça remonte. Et ils étaient trompés dans l'impression de la carte. Ils avaient modifié l'échelle. Et donc, ils nous avaient annoncé une journée à genre 70 km et on s'est retrouvés à faire 98 bornes. Alors,
quand... je traduis.
Ah oui,
je traduis
oui.
Pour mes
98
amis français. Pour les Français et. Voilà. Pour les Français et les Bretons qui nous écoutent.
Oui, pardon, 98.
Mais c'est pas grave. Et puis, du coup, voilà. Donc, 98.
Ouais, effectivement.
Bon, ça fait une belle différence.
Ça faisait une belle différence. Et en fait, c'est assez comique parce qu'à l'époque, je me souviens juste que j'avais été franchement fatiguée le soir. Mais je me suis jamais dit, waouh, quasiment 100 km, quoi. Alors que maintenant, quand c'est quelque chose que tu dis, ouais, t'as fait 80, 90 bornes, les gens disent, bah, c'est quasi 100, quoi. Et moi, j'étais là, du haut de mes 13 ans, genre, bah, je l'ai fait, je suis fatiguée, je vais bien dormir ce soir, quoi. Tu vois, c'était vraiment, genre, un autre monde, une autre mentalité, comme ça, genre, ouais, c'était cool. Mais bon, quand t'es en groupe à 150, c'est sûr que le temps, il passe pas de la même façon quand tu fais 98 km versus quand tu l'es fait tout seul, quoi.
Oh là oui.
Ça, c'est...
Dis-moi, à la lecture, après ce que tu viens de me dire, j'aimerais te soumettre une citation de Paul Morand. Bon, Paul Morand, pour replacer dans le contexte, sombre personnage de la Seconde Guerre mondiale, antisémite notoire et retourneur de veste professionnel. Okay. Mais n'empêche. Donc, déjà, ça donne envie de lire
son œuvre. Je me demande ce que tu vas sortir, mais ok.
Mais n'empêche que la citation que je vais te sortir, tout le monde l'a entendue un jour, il y en a même... en ce moment, qui vendent des vélos en carbone et qui sont reconvertis plus ou moins dans le vélo électrique et qui la reprennent à leur compte, eh ben, il a dit, à 12 ans, j'ai eu ma première bicyclette, depuis, on ne m'a plus jamais revu.
Sympa, sympa.
Ah, ouais, tu vois, ouais. Déjà, pour un antisémite,
ça va.
C'est déjà pas si mal, c'est déjà pas si mal. Qu'est-ce que ça t'inspire ? Parce que tu m'as parlé de l'escalade, de s'affranchir des transports, des parents et tout. Ça ressemble un petit peu à ça.
Ouais,
quand même.
C'est l'impression que ça donne en tout cas, c'est dire, ben voilà, ce vélo, ben, mon vélo, ma liberté un petit peu beaucoup même, j'ai envie de dire, et de dire que ben, le vélo, il a tellement d'usages différents finalement. Quand moi je réfléchis à tout ce que je fais avec quel type de vélo et tout ça, ben voilà, c'est le fait, c'est une fois que t'as commencé à pédaler. Bah, tu t'arrêtes plus parce que tu vas utiliser ton vélo pour aller au boulot, tu vas pour aller au sport, pour aller en vacances, pour aller faire des petites balades avec des potes, pour aller faire le tour des Pays-Bas tout seul dans la flotte. C'est tellement de choses que oui, bah, moi on me revoit parce que je rentre quand même à la maison, mais il y a des jours où tu te dis je vais juste pédaler pour pédaler parce que ça fait tellement de bien et on va vivre une aventure avec mon vélo, quoi.
Tu lui as pas donné de prénom encore?
Non, moi j'ai pas. C'est un truc que j'ai découvert en fait quand j'ai commencé Twitter il y a 3 ans. J'ai découvert qu'on donnait des noms à son vélo. Donc j'étais un peu surprise.
Ouais.
Moi, bon, je viens quand même d'une famille de geeks, donc moi, j'avoue qu'on donne quand même des noms à nos ordinateurs pour les reconnaître sur le réseau. C'est plus simple. Mais du coup, c'est donner son nom, un nom à son vélo, je sais pas. Oui, c'est une personnalité à part entière, mais là, ça me parle pas plus que ça. Voilà, j'ai un nouveau qui est censé arriver et juste parce qu'il est rouge, ça m'a inspiré la fusée parce que ça va être un gravel très léger par rapport à ce que je roule maintenant. Mais à part ça, c'est juste mon vélo, quoi. C'est pas, je vais pas l'appeler Justin ou que sais-je, quoi.
Ouais. Justin uniquement parce que ça ressemblerait au rouge du saucisson Justin Bridoux. Bah, dis donc, pour du vélo. Bravo.
Ben, une bonne sortie à vélo, il y a un bon saucisson qui traîne quelque part, quoi. En tout cas, chez moi.
En tout cas, chez toi, chez les noms de famille, voilà, parce que du coup, il faudra quand même que tu me donnes ton nom de famille pour que je le mette dans l'épisode.
Ouais, bah c'est Smets, si jamais tu veux écrire.
Ah, mais c'est un nom bien connu, ça, en France, tout le monde connaît. Bah évidemment, nous, on appelle ça, on dit plutôt Hallyday.
Ouais,
mais Smets, évidemment, c'est bien connu.
Moi, j'ai le S en plus à la fin par rapport à Johnny, en fait.
Ah,
j'y tiens beaucoup parce que c'est ce qu'on me dit à chaque fois. Ah, oh, t'es de la famille de Johnny. Bah, absolument pas. Je ne connais pas cet homme-là.
Ouais, c'est pas facile. Bon, bah ça va maintenant, de toute façon, il est... Bon, j'espère qu'il n'y a pas trop de fans de Johnny ici, donc je vais pas me moquer. Et en plus, même si je me moque, j'ai quand même beaucoup de respect pour sa carrière et ce qu'il a fait sur ses plusieurs décennies. Et on n'est pas prêt de revoir des artistes de ce genre tenir le choc sur plusieurs décennies. Donc,
je dis pas, mais c'est juste qu'à chaque fois que je donne mon nom de famille, et on a un ministre en Belgique qui a été un ministre de la mobilité à Bruxelles aussi, qui a aussi le même nom de famille que Johnny. Et donc, les gens me disent soit Johnny, soit ce ministre-là. Et moi, je suis là genre, en fait, non, il y a juste une lettre en plus à la fin, quoi. Donc, c'est pas le même nom de famille.
Juste après le T de ta gueule, voilà.
Ah, et pas mal, celle-là, je vais la retenir.
Ah, dis donc. Putain, qu'est-ce que je suis drôle ce soir, je me surprends, dis donc. Waouh, ça m'arrive jamais d'être aussi hilarant. Y a un truc que j'aime chez toi, vraiment. Parce que, alors déjà, je vais commencer par remercier Knack, un sombre personnage, un Alsacien. Donc voilà, c'est comme ça. Mais bon, il est suffisamment sympa pour bientôt m'interviewer dans son podcast. Initialement, il interviewait des personnalités alsaciennes, mais bon, apparemment, il a fait le tour. Ils étaient 8. Donc maintenant, il va être obligé de se reconvertir dans les inconnus qui parlent dans un micro. Donc dans le mois d'août, on va faire ça. Et il n'y a pas longtemps, il m'a écrit. Il me dit, bon, écoute, je t'ai trouvé une cliente idéale. Regarde, tous ces tweets. Alors déjà, je déteste Twitter, mais là, ça m'a achevé.
Ouais.
Et il m'a dit, regarde, elle a fait cette course. Elle a fait cette course. Par contre, sur celle-là, elle s'est crachée. Donc déjà, tu vas me raconter un petit peu ces trois courses et ce qui t'est arrivé. Quand on réussit sur une course, bon, bah voilà, on a réussi. Il n'y a pas grand-chose à raconter. Mais quand on abandonne... Eh ben, c'est déjà bien plus intéressant et il y a bien plus à apprendre d'un abandon que d'un échec, semi-échec,
ouais.
que d'un succès. Et donc il m'a mis sur ta voie, j'ai regardé, j'ai observé et ce que j'ai aimé, c'est que tu es un mélange bizarre de travailleuse à vélo, de voyageuse à vélo et de compétitrice pas acharnée, mais tu as quand même cette idée de te mettre au départ d'épreuves longue distance, bikepacking, etc. Et c'est ça que j'aime bien, parce que souvent c'est l'un ou l'autre ou le troisième, mais on a rarement, moi en tout cas j'ai rarement vu ce package complet, ce mélange de voyageuse, compétitrice, travailleuse. Et ça j'adore.
Ok, mais je pense qu'il y a une émulation.
Tu peux dire merci déjà quand même.
Mais ouais, je dirais qu'il y a une émulation en fait, parce que du coup moi historiquement je suis plutôt cyclo-voyageuse, donc c'est... C'est avec mon VTC, ces deux sacoches ou la remorque parfois en prenant beaucoup trop d'affaires pour 10 jours. Enfin, parfois, j'ai revu des photos et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on prenait pas comme bordel avec, quoi. Et de là, il y avait une affinité du coup pour le vélo qui s'est transformée en travail. Et en fait, c'est via un de mes anciens collègues que j'ai découvert tout ce qui est ultracyclisme, parce que lui allait faire la TCR en 2017 ou 2018. Ouais. Et moi, je me souviens quand même parce qu'il avait un jour amené son vélo, sa machine de guerre, comme je l'appelais. Il avait amené ça au boulot. Et c'est la première fois que je voyais un vélo déjà aussi léger. Je l'avais soulevé. J'étais là genre, what? Enfin, c'est quoi ça? ce genre de sacoche. Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais avec un vélo comme ça? Et il m'a dit, bah, en fait, on va partir de Gramont, on va aller vers Strasbourg. Et puis, ils finissaient en Grèce ou je ne sais plus quoi. Et je l'ai regardé, mais je dis, mais c'est quand même pas la porte à côté. Et il me dit, non, c'est 4000 km en 16 ou 17 jours, quoi. Et je l'ai regardé, je fais, mais t'es un peu taré. 2 ans après, c'est moi qui fais ça, quoi. donc je pense que c'est... Pour moi, c'est une évolution dans ma façon de faire du vélo. Parce que, voilà, ici, maintenant, j'aime bien dans l'idée du bikepacking, c'est vraiment de faire léger et d'arrêter de prendre plein de brôles avec, même si d'un autre côté, ben voilà, le week-end passé, je me suis fait plaisir, je suis juste allé rouler 2 jours et une nuit sous tente. Ben évidemment, dès que tu prends la tente, ben, t'as du brôle en plus, quoi. Et c'est là, genre, ben, finalement, c'est pas mal, là, 2 sacoches, rouler pépouze, j'ai fait, j'ai fait 140 km, donc ça peut paraître beaucoup pour les gens. Mais de l'autre côté, le lendemain, j'ai dit, bah, j'irai bien voir la mer. Et donc, j'ai complètement changé mon itinéraire. Et puis, j'étais contente. J'avais fait 50 km. J'ai dit, bah, je vais prendre le train pour rentrer en mode vraiment touriste, quoi. Et donc, j'aime encore bien cette façon de faire là. Mais d'un autre côté, j'aime bien aussi, dans l'ultracyclisme, c'est cette idée de challenge, de dépassement de soi, de se retrouver seul face aux éléments. Parce qu'aux Pays-Bas, c'est clairement ce qui s'est passé. Je me suis retrouvée sur ces digues au nord du pays avec une tempête sur la tête. Il n'y a pas d'autre mot. J'avais des rafales de vent, d'après ceux qui me suivaient, de 45 à 50 km/h, vent de face. Tu n'avances pas du tout de la même façon. Tu es courbé sur tes prolongateurs. Et je ne sais pas, je kiffe toutes ces façons-là de faire du vélo. Et pour moi, c'est un tout ensemble. Et l'un a amené l'autre, et il y a des moments où j'ai plus envie de faire, par exemple, du bikepacking ou de ressortir la tente et d'aller tranquillou, de dire je pars à 9h du matin et pas quelle idée de se lever à 4h du mat pour aller rouler, n'est-ce pas? Et enfin, voilà, c'est un mix de tout, et j'aime bien toutes ces façons-là de faire, et voilà.
Eh bien, magnifique. Si tu me parlais un petit peu, donc c'était la, donc ton abandon, on va l'appeler
c'est,
ça comme ça.
C'est un abandon. Oui.
C'est un abandon sur la Race Cross Netherlands.
Non, alors en fait, celle que j'ai finie, mais j'étais hors délai, mais ils m'ont quand même mis finisher officiel, donc c'est la Race Run Netherlands. Je suis 13 heures en retard, en gros. mais donc c'est sur la Panache Rally que j'ai abandonné. Donc ça, c'était il y a un mois. On prenait le départ le 13 juin. Et donc, on partait de Bruxelles. Et l'idée, c'était de rejoindre... Donc, c'est un club de vélo qui organise ça. Et donc, ils ont un club à Bruxelles et ils ont un club à la Turbie. Donc, c'est à côté de Nice. Et l'idée, c'était de rejoindre le club là-bas en passant par... Il y avait le ballon d'Alsace, le col du Grand Colombier, et puis le pass de Morgin qui fait à la frontière de la Suisse. Et puis on basculait en Italie, on avait un checkpoint qui était dans la banlieue de Milan. Et puis il fallait finir vers Nice avec tout le long de la côte, avec San Remo et Monaco. Et en fait, je pense qu'il y a plein de choses qui ont joué. Et j'avoue que maintenant, avec le recul, je regrette quand même de ne pas avoir poussé plus. Mais en même temps, il ne fallait pas que je me blesse et que je me dégoûte. Donc voilà, la petite voix intérieure me dit que non, c'est à bien fait d'abandonner, il y aura toujours l'année prochaine pour recommencer. Parce qu'il y a quand même un gros critère, moi, qui est problématique, c'est que je veux me lancer dans l'ultracyclisme cette année, donc je commande un vélo en octobre l'année passée, et ce vélo n'est toujours pas arrivé. Donc quand j'ai fait mon Gravelman Flandre en février, j'ai fait ça avec mon VTC Decathlon. C'était comique, mais je me suis quand même bien rendu compte que un vélo qui fait 17 kilos à vide, ça commence à être problématique quand tu commences à enchaîner les kilomètres.
Et les ascensions surtout, parce qu'il y avait quand même quelques petits alufios sur ce Gravelman.
Ben moi, j'avais pris la version route et pas gravel, parce que justement, je sais pas, je me doutais que mon gravel n'allait pas arriver. Et en plus, on était en février, donc il fallait quand même emporter des vêtements. On n'a quand même pas eu si chaud que ça. J'ai passé la nuit dans un abribus en plus, donc j'avais un petit peu du matériel pour dormir aussi. Et le seul truc qui était pas mal, c'est qu'on avait beaucoup de temps, en fait. Pour faire les 345 km, on avait quasiment 3 jours. Et donc là, je me tracassais pas en me disant, voilà, tu viens pour prendre un peu d'expérience en ultracyclisme, côtoyer des gens qui sont quand même là pour faire un peu plus de la performance que toi, parce que moi, là, clairement, j'y allais juste pour dire... Il me semble que je m'étais dit, ouais, je vais finir en 30 ou 35 heures, quelque chose comme ça, et j'ai fait ça en 33 heures. Donc on va dire que je suis rentrée dans mon objectif, mais c'était complètement en mode un peu touriste, quoi, parce que du coup, j'ai pas le look non plus que tous les autres ont, donc fatalement, je me fais un petit peu remarquer. Et là où j'ai pris de l'expérience, c'est que sur Gravelman Flandre, j'ai fait les 40 derniers kilomètres sans GPS en utilisant le système de tracking parce que mon GPS ne chargeait plus. Donc j'étais là, genre, bon ben voilà, j'ai pris de l'expérience. Et d'ailleurs, les gens me disaient, ah, t'as fini et tout. Je fais, oui, j'ai fini sans GPS, mais j'ai fini. Donc là, j'ai fait, ok, c'était fun, c'était sympa à faire, mais il faut vraiment un vélo plus adapté, quoi.
Ouais, vas-y, je te laisse finir, pardon.
Donc ça, c'était fin février, avec ce vélo qui était censé arriver fin janvier. Donc je rentre, évidemment, j'harcèle mon vélociste au téléphone, le pauvre. et donc le vélo a été d'abord reporté une première fois à fin mars. Donc je me disais que ça, c'était encore bon pour la race around Nederland. Et puis actuellement, on en est à peut-être au mois d'août. Donc qui vivra verra, quoi.
Tu as commandé quoi ?
Un Genesis Croix de Fer 20.
Pourquoi ce choix ?
Parce que je voulais un vélo polyvalent. Donc, en fait, ce qu'il y a, c'est que donc, moi, actuellement, j'ai mon VTC là, chez Decathlon. Et j'ai des potes qui ont commencé à avoir des gravels. Donc, on a commencé à faire des sorties un peu plus gravel. Donc, dans des chemins qui, parfois, avec le VTC, c'est un peu limite quand même. Ça fonctionnait, mais c'est un peu limite. Mais en même temps de ça, sur la route, il s'en sort très bien. Donc, je me suis dit, est-ce que c'est pas plutôt un vélo de route ? Et puis, en fait, non, parce que j'aime bien mixer ces trajets de route avec des petits chemins que tu trouves un peu par hasard et que tu vas voir ce qu'il y a. Et alors aussi, la grosse différence qu'il y a, c'est que donc, mon VTC, c'est un cintre plat et le gravel, ça va être un cintre route. Et niveau efficacité, maintenant que je roule avec un vélo de route, je comprends la différence de guidon. et du coup, il y avait ce gros passage-là pour moi vers un cintre route. Et après ça, il y avait aussi une question de transmission qui, sur le VTC, évidemment, est plus adaptée à la ville, triple plateau, 8 vitesses, machin, des trucs comme ça. Et qui est aussi en frein à patins, et que du coup, le gravel, c'est des freins à disque. Et ça, en fait, les freins à disque, j'ai commencé à connaître grâce au vélo cargo. Et c'est quand même assez rude de passer d'un vélo qui a des freins à disque à un vélo qui a bêtement des patins. T'as quand même l'impression que ça ne freine plus du tout. Ça freine, mais tu dis que c'est différent, quoi.
Ça freine, mais du coup, ça avance quand même. Donc,
ouais, voilà, c'est pourquoi je continue de glisser, quoi. Enfin, tu vois, donc. Et du coup, voilà, il y avait un peu toutes ces choses-là. Et je me suis dit, on va passer le cap d'un nouveau vélo, quoi. En sachant que moi, c'est jamais que ce sera le troisième vélo de toute ma vie entière, quoi. Donc, c'est assez important comme événement aussi. C'est pour ça que je l'attends. mais il y a vraiment cette idée aussi de vélo plus polyvalent que ce que j'avais maintenant. Parce que, clairement, c'est pas avec un vélo cargo que je vais aller faire des petites folies d'ultracyclisme. Et donc voilà, le choix s'est porté là-dessus parce que je connaissais des gens qui en avaient, qui étaient contents, qui avaient d'anciennes versions de Genesis, qui en étaient contents et qui disaient ça ne fait que s'améliorer. Donc c'est quand même plus ou moins une valeur sûre, Genesis. Et puis il y a la question du budget qui s'est posée aussi. Et du coup, j'ai dit j'ai établi une liste de critères avec ce que je souhaitais. Et le Genesis fait partie de ceux qui étaient dans le budget, même si j'ai dû monter un peu le budget parce que. Quand moi, j'ai voulu acheter, il y a déjà plein de choses qui n'étaient plus de stock. Et donc, j'ai dit, je vais remettre 200 euros en plus. Comme ça, il y a celui-là. Et pas de bol, il n'était plus de stock non plus. Donc. Voilà, quoi. Mais voilà, c'est simplement comme ça. Et parce que je connaissais des gens qui en avaient. Et je me suis fié aux bouches à oreille et des gens que je connaissais, quoi.
Alors, tu as dit plusieurs trucs intéressants. Tu dis, j'ai un look qui ne passe pas inaperçu. Ça veut dire quoi ?
Ça veut dire que moi, je me pointe. Déjà, j'ai ma veste du boulot qui est bleu flash. C'est la Rafa Commuter bleu électrique, pour ceux qui connaissent.
C'est beau, ça.
Les autres, ils iront googler. Elle est magnifique, mais du coup, évidemment, versus les autres qui ont déjà des jerseys de vélo avec les poches à l'arrière. Moi, je suis là, genre, je mets les mains dans les poches sur le côté. J'ai ma capuche. Et alors, actuellement, comme j'ai toujours pas un vélo qui ressemble aux autres, j'arrive, j'ai un vélo qui a un porte-bagages. Il y a une ou deux fondes dessus. J'ai ma sacoche de guidon qui est rectangulaire et pas bikepacking. J'ai un casque à visière, et ça choque les gens en général, parce que c'est un casque qui est quand même assez lourd, entre guillemets. Il fait genre 400 grammes, en soi, c'est rien du tout, mais versus un casque qui fait 150 grammes, voilà. Mmh. Mais cette visière est quand même vachement utile et m'a déjà bien sauvée. Je roule souvent avec une chasuble, mais c'est une chasuble qui est un look camouflage comme ça, avec du gris blanc. Et donc, ça marque les gens en général. Et alors, ce qui marque aussi, c'est que je roule en basket. J'ai pas de clips sur mes pédales. Mmh. Et donc, moi, c'est basket ou sandales, quoi. Et quand il fait beau, c'est short t-shirt. Donc, du coup, c'est pas du tout la même chose que ceux qui ont full lycra, quoi. Ce qui, en général, quand tu te pointes à un départ d'une course d'ultracyclisme, est quand même plus la tendance que le short t-shirt sandale, quoi.
Alors, le côté sandale, ça va changer. Parce que je sais pas si tu as noté, mais en ce moment, donc c'est le Tour de France, et il y a un athlète de l'équipe IF Drapac qui n'est pas sélectionné sur le Tour et qui a décidé de faire le Tour parallèlement, seul, en mode bikepacking. Donc il se tape toutes les étapes et évidemment tous les transferts, donc il fait pratiquement 2000 km de plus que les coureurs du Tour. Et j'ai noté tout à l'heure sur une photo qu'il est en pédale plate en plastique merdique et qui roule beaucoup en sandales. Donc là, je check.
Ouais, alors en fait...
Ouais, vas-y.
Ouais, en fait, je le suis aussi parce que donc, je connais quelqu'un d'autre qui n'est pas aussi connu que Lachlan.
Eh ouais.
Donc, il y a Maximilien qui, en fait, fait la même chose que Lachlan, sauf qu'il a fait le Giro avant et il fait la Vuelta après. Il fait le bikepacking des trois grands tours, donc il est en mode autonomie totale.
Ouais.
Et c'est comme ça que j'avais commencé à regarder ça. Et puis, quand le Tour de France a commencé, il y a Education First qui a beaucoup communiqué sur Lachlan. Et évidemment, quand il est passé avec ses sandales et les pédales plates, les gens ont été complètement choqués. Moi, ça m'a fait pleurer de rire.
Je trouve ça cool.
C'était super cool parce qu'en plus, genre après, il a refait un trou en plus pour resserrer un peu. Mais d'un autre côté, ça donnait des ampoules. Donc, il a coupé un bout. Et puis après, il a quand même mis des chaussettes parce qu'il avait froid aux pieds, donc son look était, enfin, c'était magnifique. Moi, ça m'a vraiment beaucoup fait sourire parce que les gens découvraient, c'est comme si on pouvait faire du vélo autrement, quoi.
Mais oui.
Et bon, il est quand même repassé au au cal et avait ses chaussures classiques, on va dire, quand il a commencé à devoir monter. Donc,
ouais. Donc ça a
marqué les esprits quand même. Quoi.
C'est pas totalement full autonomie, quoi, parce que bon, même s'il emmène la gamelle, le réchaud et tout. Je l'imagine mal non plus emmener la clé pour démonter les pédales, la paire de pédales et les pompes en carbone, quoi.
Je pense qu'il est allé dans un magasin pour faire ça. En fait.
Ah ouais ?
Trouver des pédales plates et j'ai pas suivi en détail exactement où est-ce qu'il a fait les changements, mais a priori il s'est démerdé seul pour trouver un magasin qui lui faisait ça, quoi.
Ah, il est trop cool. Bon, si c'est vrai, il est trop
mais
cool.
Mais il est. Alors en fait, il est vraiment cool parce que c'est un des athlètes pro. Qui fait ce genre de choses, il a fait le GB Duro en 2019 ou quelque chose comme ça, ouais. Et il a fait d'autres trucs d'ultracyclisme. Et c'est comme ça en fait que lui je le connais, c'est pas du tout en tant que peloton UCI ou je sais quoi, mais c'est vraiment tous ces trucs d'ultracyclisme qu'il a fait parce qu'évidemment Education First fait des très belles vidéos là-dessus, parce qu'ils ont les moyens de le faire et du coup c'est assez sympa à découvrir et pour moi c'est aussi la preuve que les athlètes professionnels, ben en fait, finalement, c'est juste des humains comme les autres et qu'ils ont envie de s'amuser aussi, quoi. Sauf qu'ils s'amusent en ultracyclisme, qu'il y a beaucoup de gens qui ne feraient pas et qui ne trouvent pas ça amusant, mais moi, je trouve ça fun.
Ben, je suis complètement d'accord. Donc, du coup, je guette, tu vois, fiévreusement. Alors là, je vois qu'il est, il a largement passé le Ventoux, qu'il attaque les Pyrénées et j'espère que, qu'il va attaquer, qu'il va passer vers chez moi lundi ou mardi. Et je vais essayer de faire une vidéo. J'ai roulé avec la Clan Morton, donc je surveille.
Mais du coup, tu peux demander à Justine, justement, elle a essayé de le guetter aussi quand il passait dans sa ville.
Ouais.
Et le tracker, en fait, n'est pas tout à fait correct.
J'ai vu ça, ouais. J'ai vu le commentaire de Justine, donc je prends les devants. Je réfléchis à la stratégie, comment je vais... alors, est-ce que je vais faire le planton, tu sais, comme un crétin au bord de la Nationale, entre deux camions de prostituées sur la route de Rambouillet. Peut-être que je mettrai ma petite bougie et tout sur le guidon, je sais pas, je vais voir. Mais en tout cas, ouais, je vais vraiment essayer de le choper, parce que c'est hyper intéressant. Et le côté... rouler comme on veut. Alors, on a des exemples. Je pense à Maxime Barra, que j'ai eu le plaisir de croiser il n'y a pas longtemps. Et on sait tous qu'il roule en shorts, en cuissard et en chemisette. Et il fait des bornes et des bornes chaque année. Et il a toujours... Il a visiblement tout ce qu'il faut. Et ça n'a pas été rongé par les frottements. Donc, tout va bien. Mais tu vois, l'année dernière... j'ai toujours roulé Lycra, tu vois, les fringues moulantes et tout. Ouais. Et l'année dernière, j'ai eu la chance d'avoir qu'on me donne des habits de VTT, donc plutôt trail, mm-hmm. tu vois, short, t-shirt. Et j'ai découvert la liberté de rouler en short, bon, certes avec un cuissard en dessous, mais en t-shirt. Et ça a changé ma vie.
Hein. Ouais, mais c'est un truc, alors c'est assez comique parce que moi, j'ai fini par passer au cuissard en tout cas. J'ai quelques hauts, mais non, parce que je trouvais ça sympa, parce que c'est quand même le lycra, c'est quand même léger, c'est respirant, enfin, il y a quand même des avantages, c'est pas pour rien que les gens roulent avec ça, mais je reste pour le haut, je reste plus fan des t-shirts, mais évidemment, pour faire la longue distance, quand tu dois t'enquiller 1900 km en 10 jours, il y a un moment, tu vois, le short, ça suffit plus, quoi, et donc moi, je passe au cuissard pour faire plus de 150 km, ouais. en fait, mais en dessous de ça, je reste tout à fait avec mes shorts. Et moi, je suis beaucoup vêtements de trekking, en fait. Donc,
c'est le même. Hein,
c'est aussi des shorts très légers. Ouais, c'est un peu le même style parce qu'en plus, c'est des vêtements qui sont assez fins ouais. en général et qui sèchent ouais. vite. Donc, si tu prends l'eau, tu vas sécher plus vite qu'un pantalon, je sais pas, en toile, en coton ou quelque chose comme ouais. ça, quoi.
Et tu vois, à l'automne, je me suis offert un luxe. Sur l'Ultra du Ventoux, j'ai fait cuissard short. Alors, le short, c'était pas une bonne idée parce qu'il glissait, en fait. Donc il faudrait un short, tu vois, avec une petite bretelle à l'arrière et qui se clipse avec un bouton, par exemple, sur les bretelles du cuissard. Donc vraiment un ensemble pensé pour ça. Ou alors que j'ai des dons de couturier, mais que je n'ai pas. Donc au lieu de me blesser, je vais attendre que quelqu'un le fasse à ma place. Et en haut, j'avais juste mon sous-maillot long, parce qu'il faisait un peu frais, manchette et t-shirt. Et j'avais rien d'autre. Tout était dans les sacoches, j'avais rien dans le dos, j'avais rien dans les poches. J'avais juste le téléphone dans la poche du short. Et c'est cool, quoi. T'as bon.
C'est, ouais. c'est une autre façon de faire.
C'est une autre façon d'aborder
moi,
le truc.
Moi, je pense
quoi.
Que c'est
plus relax.
Ouais, c'est ça, mais c'est plus relax. Mais d'un autre côté, moi, je dis tant que ça convient aux rouleurs. Moi, je suis très contente de rouler avec mes sandales et tout ça quand je roule avec mes potes. Mais quand je suis partie sur les trucs d'ultracyclisme, par exemple aux Pays-Bas, c'était au mois de mai, la météo n'était pas terrible, ben, je suis partie avec mes Converse Gore-Tex doublé fourrure parce que c'était adapté, je savais que ça ne percerait pas. Et ici, pour Panache, ben, je suis partie avec les Converse classiques parce que je me voyais quand même pas non plus aller jusqu'à Nice en sandales. Quoi. Ça aurait été assez épique, mais je pense que mes pieds n'auraient pas aimé. Et donc, il faut aussi, moi, je réfléchis aussi à est-ce que c'est adapté à ce que je veux faire. Et bah parfois je teste et c'est pas adapté, je le découvre et je le sais pour la fois d'après quoi. Mais voilà, je pense que toutes les façons de faire sont bonnes, il y a pas de mauvaise façon, il faut vraiment que ça corresponde à la personne. Mais du coup évidemment bah voilà, quand je me pointe sur un départ de course d'ultracyclisme, comme moi je suis la seule qui ressemble pas aux autres, bah évidemment c'est là que les gens me regardent quoi. Et en plus je suis une fille donc ça rajoute la case en plus quoi.
Et tu finis ? Parce que c'est quand même le dire le côté vilain petit canard et tout, ça fait marrer au début, mais quand on finit, plus personne rigole. Ah, je peux te, enfin là ça a pas grand chose à voir, mais tu vois là récemment j'ai beaucoup roulé sur un gravel suspendu. Au début on s'est bien foutu de ma gueule. Ah, c'est sympa ton VTT. Et quand j'ai commencé à mettre des vidéos, la vitesse à laquelle je passais sur les sections un peu cabossées, dans les descentes et tout, eh ben tu sais que plus personne rigolait. Et toi, c'est pareil, ou plein d'autres, tu vois, ou Justine. Bon, alors Justine, c'est un cas à part parce qu'elle a jamais monté une côte de sa vie. Mais. non, mais c'est vrai, elle me l'a dit en plus.
Ouais, non, oui, j'essaie. Avec ravissement, j'ai écouté son podcast et je me retrouvais quand même dans certaines choses qu'elle disait parce que bah, j'ai ce background de cyclo-voyageuse quand même. Et c'est sûr que quand ton vélo il est chargé à full bloc de tout ce que tu as besoin pour tes 10 jours de vacances, c'est quand même pas la même chose que. Ultra light, ultra cyclisme, quoi. Donc, c'est deux façons de faire. Et les gens ont tendance à juger. Et en fait, moi, j'arrive de mieux en mieux à dire, bah, je m'en fous parce que moi, je suis là pour m'éclater, moi, en fait. Finalement, je viens pour mon challenge à moi. Et justement, je le fais selon mes conditions. Alors parfois, j'ai des idées qui avaient l'air très bonnes au départ et puis 4 jours après, ça s'avère pas si bonne que ça. C'est pas grave, j'apprends, je prends de l'expérience et quand je reviendrai la fois d'après, je ferai différemment ou je ferai comme ce que j'aurais appris, comme j'aurais envie de faire et voilà quoi. Chacun vit sa vie sur son vélo, ouais. Quoi.
J'ai une phrase pour ça quand on parle, tu vois, avec des gens, avec des novices qui veulent faire un gros truc. Est-ce que j'ai le bon vélo? Est-ce que j'ai les bonnes fringues, les bonnes sacoches? À ton avis, est-ce que ça passe avec ces pneus-là? Et souvent, je leur dis, tu verras si tu finis ou si même si t'abandonnes, tu sauras peut-être pas ce qu'il faut faire, mais en tout cas, tu sauras ce qu'il faut pas faire.
Ouais, exactement. C'est exactement ça parce que. Moi ici pour la race Run Nederland, j'avais lu tout ce qui, je crois que j'ai trouvé tout ce qui existait comme blog que les gens avaient écrit sur les autres années. J'ai regardé toutes les vidéos que j'ai pu trouver, j'ai lu les comptes rendus de d'autres watchers, mais ça reste que ça c'est la théorie. Et il y a que la pratique où t'apprends, c'est apprendre sur le terrain. Et ma course c'est pas du tout passé comme je l'avais prévu, c'est pas grave. J'ai lâché prise et j'ai dit on va faire au jour le jour en fonction de la météo, en fonction de ce que je trouve où je dors, en fonction de ce que je trouve pour manger. Et le reste, c'est que du bonheur, c'est de l'expérience que je prends. Et maintenant, j'ai envie de retourner pour faire mieux parce que je sais que je peux faire mieux. Mais en même temps, si je n'avais pas cette première expérience qui est finalement une réussite, je ne pourrais pas dire que je peux revenir l'année prochaine et effectivement faire mieux, quoi. Il faut le vivre pour le faire et il n'y a pas de vérité absolue. Enfin, c'est comme quand on pose la question, mais quelle selle est bonne pour moi? Alors là, la selle, c'est un tellement vaste débat. Tu dois tester, tu dois trouver ce qui te convient, avec quel type de vélo, la position, l'inclinaison. Enfin, il faut juste tester, quoi. Tester et se faire plaisir en testant, finalement. Parce que si c'est pour se dégoûter du vélo, c'est pas top.
De toute façon, même l'ensemble, faire du vélo, ça doit rester... tu vois, tout à l'heure, je t'ai parlé des surprises que je prépare pour la rentrée, mais il y a un truc que j'entends à travers les épisodes, selon les athlètes. Par exemple, moi, j'aime pas le fractionner ou j'aime pas avoir un plan d'entraînement prédéfini parce que ça m'emmerde ou pour X raisons. Mais le vélo, la pratique et la préparation doit aussi rester un véritable plaisir. Comme dit Clément Mahé, ça doit être, même le jour de la course, ça doit être un jour de fête. Mais c'est pas parce qu'on va se mettre sur des entraînements ou sur des séances d'entraînement avec des trucs à faire vraiment spécifiques que c'est une contrainte. Et au contraire, je pense qu'il faut être créatif dans ce que l'on fait, dans sa pratique. Pour prendre du plaisir, même dans des trucs parfois un peu rébarbatifs. Et au contraire, s'ils sont rébarbatifs, les tourner d'une manière à ce que ce soit super marrant, super ludique, même si on finit avec les cuisses éclatées. Mais être créatif et se dire juste je vais rouler parce que je fais du vélo, d'accord, alors c'est comme se dire j'ai une guitare, je gratouille, j'essaye de jouer Smoke on the Water, Let It Be, et puis voilà, j'arrive pas à faire plus. Mais si on trouve des moyens de un petit peu ludiques, on se retrouve à jouer Master of Puppets.
Ouais, non mais c'est ça, je comprends tout à fait. Et pour moi, c'est ça aussi. Et en fait, donc moi j'ai donc dans la cyclosphère, donc c'est les gens qui font du vélo sur Twitter, ça s'appelle la cyclosphère apparemment. Et donc moi, du coup, je me suis fait une belle bande de potes. Et en fait, un truc que j'aime beaucoup. C'est qu'on fait tous du vélo, mais on a chacun notre façon de le faire. Moi, je sais que voilà, si je veux aller rouler très très longtemps, enfin faire aller des 200 km, soit je le fais toute seule parce qu'en fait j'aime bien faire ça seule, mais j'ai aussi 2-3 potes. On s'est inscrit, on est 3 à être inscrits sur un 300 km le 21 juillet. Et avec eux, je sais qu'on va pouvoir le faire, on va se pousser les uns les autres. Mais d'un autre côté, j'ai d'autres potes où on va aller faire une balade, on va faire que 40 km. Et on va s'arrêter pour prendre en photo tous les animaux qu'on croise, tous les trucs jolis, les machins. Et puis après, on va dire on fait un pique-nique. Et en fait, c'est au plus, chaque personne a sa façon de faire du vélo. Et moi, je suis contente de pouvoir partager ça avec des potes et de dire, en fonction de comment moi j'ai envie de rouler tel jour ou tel jour, je vais avec tel pote ou tel pote. Et c'est cette diversité de faire du vélo qui rend le tout vraiment un plaisir parce que c'est... C'est chaque fois différent et c'est une autre façon de faire. Et si un jour j'ai envie de pousser sur les pédales, ben je sais avec qui je dois aller pour aller pousser sur les pédales. Mais de l'autre côté, si j'ai envie de rêvasser au soleil, je sais aussi avec qui je peux aller. Le tout en utilisant le vélo comme moyen de relations sociales, de connexions sociales et de camaraderie, quoi. Et c'est vraiment toutes ces façons-là de faire du vélo. C'est la richesse finalement de chacun, c'est ça, quoi.
Alors là, je te déteste, parce que qu'est-ce que je pourrais ajouter à ça?
Désolée. Mais c'est, en fait, j'ai pas réalisé ça tout de suite, hein, parce que moi, j'avais ma façon de faire du vélo. Moi, quand je suis arrivée dans ces groupes de vélo, bah, déjà, je suis arrivée en tant que messenger à vélo cargo. Donc, vélo cargo, c'est quand même un peu le camion des vélos, quoi. Donc, c'était pas le truc super léger. Les gens voyaient pas trop ce qu'on pouvait faire avec ça. Et puis, j'ai dit, ah, mais attendez, moi, j'ai un background de cyclo-voyageuse. Moi, j'ai quand même fait un Paderborn Berlin à vélo. J'ai fait des tours en Allemagne. J'ai fait des tours en Belgique. Je suis allée en Angleterre. Et les gens ouvraient grand les yeux et disaient, mon Dieu, qu'est-ce qu'elle a pas déjà tout fait? Mais justement, malgré ça, j'ai encore découvert des nouvelles façons de faire du vélo. Alors, avec l'ultracyclisme, mais aussi avec chaque copain, copine que j'ai. Parce que il y a vraiment, j'aime vraiment bien cet exemple de dire, voilà, j'ai une pote, on va aller prendre en photo tous les animaux qu'on croise. Il va nous falloir 6 heures pour faire 40 km. Mais on aura donné à manger aux chevaux, on aura vu des biquettes trop comiques, on aura vu des petits chatons, et à chaque fois, pardon, à chaque fois on aura papoté de tout ou de rien. Et en même temps, ben voilà, maintenant ça c'est plus des mecs, mais voilà, on va aller tracer, il y a moyen d'aller tracer. Et voilà, c'est vraiment cette façon-là de faire. Et même si moi je connaissais plein de choses, j'ai quand même encore découvert des façons de faire du vélo. Et ça c'est juste trop génial parce que c'est du plaisir renouvelé à chaque fois, quoi.
Va vraiment falloir que tu ailles faire du vélo avec Clémence van der Geinst au sud de Bruxelles. Je vous mettrai en contact toutes les deux et elle est adorable. Donc si tu veux pousser sur les pédales avec une fille, et ben ouais. Je te promets que tu verras que ses fesses.
OK.
Tu verras un petit peu. Donc, du coup, dans tout ce que tu as dit, j'avais une troisième interrogation. Tu es passé. Pourquoi un VTC dans la boue et dans les chemins est moins efficace qu'un gravel, selon toi? Pourquoi t'es passé sur un entre guillemets vrai gravel alors que finalement t'as un VTC et que les détracteurs du gravel disent ouais, mais on va dans les chemins avec. C'est un VTC. Qu'est-ce qui change?
Qu'est-ce qui change? Alors, le gravel, je ne l'ai pas encore, donc je vais baser sur mon expérience avec le VTC et de ce que j'ai vu, les potes qui ont leur gravel et tout ça. Mais pour moi, ça va être une facilité en plus, parce qu'il aura des pneus plus adaptés, déjà quand même un peu plus larges que ceux de mon VTC, parce que le VTC, ce n'est pas des pneus route, mais c'est quand même pas des pneus... c'est un VTC, quoi. Et en fait, il est polyvalent, le VTC, mais j'ai l'impression que le gravel l'est encore plus et que le fait d'avoir encore plus de polyvalence et de pouvoir vraiment switcher de la petite single track à la route et puis à un chemin un peu boueux et puis un peu caouteux et puis, ah ben tiens, on repasse sur de la route, ça a l'air plus simple avec le gravel. Et
voilà, bon, bah, tu verras quand tu l'auras, on fera un
là,
bilan.
Là, j'en suis encore, on va dire que... Ouais, voilà, Je verrai quand je l'aurai, mais a priori, c'est normalement que du plaisir aussi. Et je sais bien qu'il y en a qui disent que le gravel, c'est à la mode et tout ça. Mais moi, c'est quand même... Je ne sais pas si on peut dire que c'est une discipline, mais moi, c'est une façon de faire du vélo qui m'attire beaucoup. Et donc, je verrai bien si j'accroche, si j'accroche pas, si j'accroche à fond ou si finalement, je ferai la même chose avec mon gravel qu'avec mon VTC, quoi. Là, j'en suis qu'au stade théorique, vu que le vélo, je ne l'ai toujours pas. Mais les potes qui ont... un vélo comme ça, ben quand je les vois faire, ils ont l'air vachement contents.
Bon,
quand
tant mieux. Du coup, est-ce que tu es passé, t'es pas encore passé sur un guidon de route? Si, parce que tout à l'heure, tu me disais que tu étais en plat. Oui ou non?
Alors, du coup, oui, alors oui, mais donc finalement, j'ai une pote qui m'a dit, mais tu peux pas aller faire la race Run Nederland avec ton VTC, c'est pas très réaliste. Et à un moment, je me suis dit, non, c'est pas très réaliste. Et elle me dit, ben moi, justement... je ne vais pas pouvoir utiliser mon vélo de route, qui est un vieux Peugeot qu'elle a racheté de case à un papy qui ne savait plus faire du vélo et qu'elle a retapé. Est-ce que tu veux mon vélo de route à prêter? Et du coup, j'étais genre, bah écoute, oui, il fait 12 kilos ou un truc du genre. Donc déjà, je gagne 5 kilos que je peux mettre en bagage sur le vélo. Et du coup, il a un cintre route. Et donc, je suis allée faire l'arrêt sur Nederland avec ce vélo-là, des prolongateurs que j'avais installés 2 semaines avant et que j'ai réglé le deuxième jour. et du coup, maintenant, j'ai apprêté, mais depuis, ça fait 2 mois, quelque chose comme ça. Deux mois et demi, j'ai apprêté ce magnifique petit Peugeot Bordeaux. On a déjà fait plus de 3000 km, lui et moi. Et là, je dois avouer que c'est la découverte du cintre route, c'est l'amour total, en tout cas pour les balades. En ville, pas tellement, parce que je trouve pas ça très pratique d'être penché comme ça sur le vélo. Mais un vélo plus léger, qui a des pneus plus étroits, et qui trace bien sur la route, qui est vraiment bien. Par contre, quand je suis arrivée dans les dunes aux Pays-Bas, ben, il a quand même dérapé quelques fois. J'ai fait « Ah, oui, ça, c'est sa limite quand même. » Il m'a quand même envoyé balader dans le sable 2 fois et j'étais là genre… Pourtant, j'avais pas l'impression d'arriver si vite que ça. Et je voyais les autres qui passaient et je dis « Non, ben, c'est juste parce qu'il n'a pas des pneus super larges et qu'ils sont un peu lisses quand même. »
Mais dis-moi, c'est un Peugeot vraiment ancien, alors avec les gaines qui sortent des freins et tout?
Oui, ça sort… La sacoche que j'ai sur le guidon, du coup, en fait, les freins sont, enfin, les gaines de frein, les câbles sont devant la sacoche et tellement ça ressort.
C'est pas un Hobis qui a un Aspin ou un Tourmalet, le modèle? Parce que mon père l'a quand il s'est remis au vélo dans les années 80 après avoir arrêté de fumer. Le vélo qu'il s'est acheté, c'était celui-là immonde. Enfin, moi, je le trouvais immonde parce que le Bordeaux laisse tomber, coup de chiotte. Mais n'empêche qu'il avait, je sais plus lequel c'était, Hobis, Capin ou Aspin ou Tourmalet. À l'époque, la gamme avait des noms de colle diverses, mais je crois bien que c'est celui-là, ouais, avec des tubes tout fins, avec les gaines de frein qui ressortent des cocottes. Voilà, ouais, les années 80, quoi.
Ouais, ben, je sais pas, je crois que j'ai déjà mis une photo complète sur Instagram de lui, mais je suis pas sûre. Mais moi, j'appelle ça le vieux petit Peugeot et il fait sensation aussi, quoi, évidemment. Déjà, il est Bordeaux et donc les vélos qui ont des couleurs. Plus flash et tout, bah, c'est pas si courant que ça. Ça commence à arriver, mais des rouges, des jaunes, c'est quand même pas très courant. Et du coup, les gens le regardent déjà, oh, il est Bordeaux et tout. Puis, waouh! Tu sais, genre, et Peugeot, c'est les voitures, quoi, pour les gens, quoi.
Ils faisaient des vélos de route, maintenant ils font des VTT électriques. Ça s'appelle l'évolution du monde aussi. Tout simplement, le monde change. Incroyable! Incroyable! Tu t'es acheté quoi comme gravel? Bah non, je t'ai déjà posé la question. Un Genesis Croix de Fer, Richard, ouvre tes oreilles. C'est ça?
Alors,
j'avais oublié, demandais quel était le gravel que tu t'es acheté, mais tu m'avais déjà répondu. C'est un Genesis Croix de Fer, c'est bien ça? Ouais.
Oui, Genesis Croix de Fer 20, ouais. Mais alors, je tiens à dire aussi que donc, c'est celui de 2021, mais le rouge, pas le bleu. Il y a beaucoup de gens qui prennent le bleu.
Pourquoi?
Mais moi,
t'as un problème avec... t'as un truc avec le rouge?
Moi, j'adore le bleu de base, mais en fait, j'avais des potes qui avaient déjà le bleu. Et j'ai dit, bah, moi, je veux le rouge pour être différent. Et puis, comme ça, moi, ça me change un petit peu de mes gammes de couleurs habituelles, on va dire. Et il est vraiment beau au rouge aussi, je trouve. Mais alors du coup, par contre, ce qui est la loose complète, c'est que donc, le mien n'est toujours pas arrivé, mais j'ai 2 potes, le leur est arrivé, donc finalement, on sera au moins 3 dans mon groupe de potes à l'avoir.
Super. Alors là, toi qui aimes te différencier, ne pas être comme tout le monde, bah alors là, super.
Mais on pourra jouer au Dalton parce qu'il y a XS, S et M.
Et qui a le XS?
Une pote qui est un peu plus petite que moi. Moi, je suis déjà pas très grande.
Bon, c'est pas grave. qu'est-ce qui s'est passé sur le rallye Panache pour que tu abandonnes, on va dire, un peu à contre-cœur?
Ouais, en fait, donc, pour comparer avec l'arrêt sur Nederland, il y avait un départ individuel avec toutes les minutes réparties sur 2 matinées. Et on avait un cut-off time final. Il y avait des chronomètres entre, mais pas de checkpoint, comme on connaît habituellement sur des courses. Et la Panache, il y avait des checkpoints. Et le premier checkpoint, il était à 82 km, il était avant le mur de Huy. Et moi, il y avait ce temps, et moi j'avais dit, il faut quand même que j'arrive à l'heure au checkpoint. Mais moi, je roule pas très très vite, en fait. Ça, c'est un truc que je dois améliorer, par exemple, c'est ma vitesse. Et du coup, ben, déjà, on a dû attendre 3 heures au départ parce qu'il y avait un homme politique qui venait faire les coups de sifflet pour le départ. Et du coup, ben, on nous avait demandé d'être là à 10 heures pour un départ à 13 heures. Et donc, ben, une fois que tu avais fait ton check-in et tout ça, ben, on s'est tous regardés pendant 3 heures, à commencer à stresser tous. J'étais quand même contente d'entendre que j'étais pas la seule à stresser. Et puis, on donne ce départ et je me dis, je me sens bien, je me sens en forme. Allez, go, j'y vais, je pédale. Et j'ai fait une erreur que je savais que les débutants font, mais que j'ai pas faite aux Pays-Bas, mais je l'ai fait ici sur la Panache. Je suis partie trop vite. Ça veut dire que je suis allée jusqu'à en faisant une moyenne de 21-22. Alors, c'est pas une moyenne qui est très élevée, mais ma moyenne habituelle à moi, c'est 18-19. Donc, fatalement, bah, ces petits kilomètres-heure en plus, bah, je suis arrivée à Oui, j'étais à l'heure au checkpoint, j'étais contente, j'avais encore 45 minutes devant moi, donc ça, c'était cool. Mais du coup, ça m'a quand même déjà fatiguée. Et puis, la montée du mur de Huy, bah, pour ceux qui connaissent pas, bah,
vous comprendrez tout de suite.
Vous allez voir comment c'est ouf. C'est complètement n'importe quoi, ouais. Et donc, même en poussant le vélo, moi, ça m'a quand même coûté beaucoup d'énergie. Et donc, j'ai pris un peu de repos. Enfin, j'ai fait une pause, j'ai mangé un bagels à ce moment-là. Et là, j'ai fait aussi une erreur. C'est que je passais devant une station-service et je me suis dit, c'est pas grave, je prendrai à la prochaine parce que là, j'ai encore assez. J'ai assez d'eau, j'ai assez à manger. Et en fait, j'ai plus jamais croisé une station-service sur le premier jour. Donc, j'ai bouffé tout ce qui me restait, j'ai bu tout ce qui me restait en gardant un petit peu pour le lendemain, mais ça a commencé à m'inquiéter aussi. Et puis, bah, c'était quand même assez vallonné. Ça monte, ça descend, je m'en sors pas trop mal. Il y a quand même une grosse montée. Et là, je me dis, tout là là, j'ai quand même l'impression que les vitesses... j'ai l'impression d'être entre deux vitesses, quoi. Il y a un truc dans la transmission, c'est pas top, mais ça va, j'arrive à le faire. Juste avant, je crois que je m'en souviendrai toute ma vie évidemment, mais avant Bois et Borsu, qui est un bled où il y a 4 rues et l'église, la rue elle est pas très large et donc je suis au milieu. Et en fait, de gauche surgissent des animaux, ça doit être, je sais pas, des perdrix ou des faisans, enfin ça surgit des fourrés. Et ces couillons là, évidemment, ils me font peur. Et donc, moi, je serre à droite, mais à droite de la route il y avait un fossé et donc je finis dans le fossé. Avec le fossé, donc ma jambe était au fond et le vélo était sur le haut. Enfin, je m'en suis sortie, mais je me suis mangée. Alors là, tu vois, le coup du short, c'est pas très pratique quand t'es dans les orties. Ça pique quand même assez fort. Et après, je commence à constater que j'ai des problèmes avec changer les plateaux. Il veut plus descendre du deuxième plateau au premier. Je change avec la manette et il n'y a rien qui se passe. Mais si je bouge, moi, la chaîne avec mes doigts, ben, ça va, j'arrive à descendre. Je me dis, bon, ok, c'est pas très pratique. On va quand même continuer. Par contre, évidemment, avec un départ à 13 heures, quand tu as fait 100 km, il est quand même pas midi, par exemple. Quand tu commences à 6 heures du mat, oui, il est midi. Quand tu as fait 100 bornes, ben, quand tu commences à 13 heures, c'est pas du tout ça. Donc, je commence à me dire que mon planning de 180 km pour la journée, j'ai eu les yeux plus gros que le ventre, quoi. Comme j'ai roulé plus vite, je suis un peu plus fatiguée aussi que ce que je m'attendais. Après 100, je crois que j'ai fait 113 km, 115 km ce jour-là, je me dis, si je pousse plus, moi, je le sens pas trop, quoi. Donc, à 21h, je tombe sur un tennis club et je trouve une place sous la terrasse cachée à l'abri. Alors ça, c'est quand même ma grande victoire, c'est que du coup, j'ai fait un bivouac sauvage. C'était mon premier bivouac sans la tente. J'ai vraiment juste sorti j'ai gonflé le matelas, j'ai sorti mon sac de couchage et j'ai dormi là. Donc ça, c'était très chouette. Ça, j'étais très contente de moi. Le seul truc un peu chelou, par contre, c'est que les tennis clubs, ils arrosent les terrains la nuit. Et du coup, je me suis fait réveiller en sursaut à minuit par ce tchou tchou. T'es là genre, mais pourquoi il pleut? C'est quoi ce bordel? T'allumes la lumière et tu vois, t'es là genre, bordel de cul, quoi. Tu fais... Et ce truc recommence une heure après. Et alors, évidemment, t'entends de l'eau, y a un moment, t'as envie de pisser, évidemment. Et donc, je me suis fini par me réveiller à 3h30. En disant, je me rendormirai pas, j'avais de toute façon prévu de partir dans une heure, remballe tes affaires et vas-y, quoi. Mais du coup, je suis en route à 5h du matin, j'ai déjà roulé quasi 10 bornes, quoi. Alors, c'est magnifique, t'as le lever de soleil, ça c'est, il n'y a pas photo, c'est magnifique. Franchement, c'est un des meilleurs moments que j'ai eu là, c'est ce lever de soleil. Mais du coup, j'ai quand même faim. Et alors, évidemment, à 5h du mat, tu penses bien que même les boulangeries, c'est quand même pas encore ouvert. Et alors, par le plus grand des hasards, à après Othon, je tombe sur un robot pizza. Et donc, vlati pas que je m'enfile une pizza barbecue, je crois, à 5h30 ou à 6h du mat, en guise de repas de la veille et de petit déjeuner, et de on verra ce que ça tient dans le ventre, quoi. Mais du coup, je suis quand même pas. Je vois bien que j'ai pas assez dormi. J'ai bien dormi, mais pas assez. Je constate que la transmission du vélo continue à toujours faire des siennes. J'ai plus mes piqûres d'ortie qui grattent, donc c'est déjà ça de pris. Mais je commence à me dire que est-ce que ce vélo est adapté pour monter, quoi. Voilà, je commence à cogiter parce que j'ai vraiment l'impression qu'il manque d'écran dans la cassette et des choses comme ça. Bon. Et alors, j'arrive à La Roche en Ardennes, et donc ça, c'est peut-être assez connu aussi des cyclistes, parce que La Roche en Ardennes, ça monte, c'est dans la vallée, donc du coup, pour quitter, t'es obligé de monter. Et je me tape une montée dans ma tête, celui-là, genre, elle fait 5 km, c'est pas possible. Alors, j'ai regardé après, elle fait que 2,4 km, avec genre 6 ou 7% de pente moyenne qui monte jusqu'à 10%. Et là, je craque, en fait, parce qu'il y a le stress des checkpoints, il y a le stress, on a dû attendre, j'ai pas assez dormi, il y a cette transmission. Je me dis, mais quoi, je vais devoir pousser dans toutes les montées jusqu'à Nice. J'attends, je suis à peine dans des trucs compliqués et je suis même pas encore dans le ballon d'Alsace ou les trucs qui montent à plus de 2000 mètres, quoi. Je dis, ça va pas être possible, quoi. C'est quoi ce bordel? Et alors, donc je pousse bon an mal an mon vélo. Je me fais frôler aussi par des abrutis de service, évidemment, lundi matin, pressé d'aller au travail. Ça n'aide pas pour le moral. Et puis, je me dis, écoute, regarde la carte, où est-ce que t'es? T'es encore en Belgique. C'est plus simple si t'arrêtes, mais non. Et je commence à me dire ça, en fait. C'est plus simple parce que, tu vois, tu vas jusqu'à Bastogne. Je sais qu'on peut venir me chercher. Après, j'aurai qu'à prendre le train. Que si je continue après... Ouais, je sais pas où est-ce que je serai, il y a la traversée du Luxembourg, et puis c'est Metz, donc Metz c'est encore un train, mais... Et en fait, je pense que j'ai commencé à mal raisonner là-dessus en disant où est-ce que c'était le plus simple d'arrêter pour rentrer. Alors quand j'aurais dû raisonner en mode, va jusqu'à Bastogne, t'auras fait 55 km, il sera 9h du matin, tu fais un vrai petit déjeuner, limite tu dors une heure, et puis tu continues, parce que... Je savais aussi qu'il y avait encore un peu du dénivelé, mais qu'après, au Luxembourg, la moitié, c'était une pente douce, quasiment jusqu'à Metz. Et à Metz, j'aurais fatalement trouvé un magasin de vélo ou quelque chose comme ça qui pouvait regarder à régler le dérailleur et la transmission. Et au lieu de me dire comme ça, j'ai commencé à me dire, en fait, c'est plus simple d'arrêter, mais non. Et ça, c'est le truc que je regrette, en fait, c'est que mon cerveau a trop vite dit, c'est plus simple si t'arrêtes à Bastogne. Plutôt que dire, je vais jusqu'à Metz, parce que Metz, ça veut dire que t'as changé de pays, ça veut dire qu'il voudra prendre 3 trains pour rentrer, il faut que le vélo passe. Au lieu de me dire, non, va jusqu'à Metz, ok, tu vas peut-être un peu chier dans les montées, mais au moins tu pourras faire réparer le vélo ou regarder et tu pourras continuer, quoi. Et du coup, ça, c'est mon regret maintenant, même si je sais que il n'allait pas non plus aller me blesser parce que moi, j'ai besoin de mon corps pour travailler, sans arrière-pensée bizarre, n'est-ce pas? Mais en même temps, si je continuais à pousser sur ces pédales avec cette transmission qui n'était pas bonne, c'était risquer des tendinites ou de forcer sur des muscles. Et moi, si je me pète un muscle, je ne travaille pas, quoi. Et donc, il y a aussi mon côté trop prudent. Je ne sais pas si c'est trop prudent, mais il y a ce côté-là de mon cerveau qui a commencé à dire « Ouais, mais si tu te pètes quelque chose, t'es parti pour je ne sais combien de semaines d'arrêt, et donc ça veut dire que t'as pas de travail. » Et je crois que j'ai commencé tout simplement à flipper alors que j'aurais pas dû flipper et que c'était lié au fait que j'étais fatiguée. Que si j'avais vraiment fait une belle pause à Bastogne et reparti, je pouvais encore faire 100 km ce jour-là, facile, puisqu'il n'était que 9h du matin. Et j'aurais pu au moins arriver jusqu'à la frontière française au deuxième jour et puis continuer comme ça. Et le lendemain que j'ai arrêté, je commençais à regarder la carte et j'ai commencé avec des si à refaire le monde. Et si j'avais fait ça, et si j'avais fait ci, et voilà, donc moi j'appelle ça quand même un échec, mais d'un autre côté j'ai appris plein de choses et je sais que les copains qui vont écouter ce podcast vont me dire que non, c'est pas un échec parce que ce que tu fais, tout le monde le fait pas. Je suis d'accord, mais d'un autre côté j'ai quand même beaucoup mieux géré ma course aux Pays-Bas alors que j'avais une tempête sur la tête, quoi. Là je partais avec 24 degrés, ok, c'était peut-être trop chaud, on annonçait 35 pour l'Italie, mais c'était d'autres conditions climatiques, quoi. Et voilà, voilà, ça c'est un peu mon truc, c'est d'avoir trop facilement dit « et si j'arrêtais, quoi ?» Alors qu'en fait, à ce moment-là, il faut juste dire « pousse sur tes pédales, c'est un coup à la fois, tu mets de la musique dans les oreilles, tu te changes les idées, mais c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, évidemment. Et j'ai pas réussi à me mettre dans cette bulle comme j'arrivais à me mettre aux Pays-Bas où je pouvais enchaîner les playlists et rouler 5 heures sans me poser de questions, quoi. Et voilà, donc c'est... J'ai envie de la refaire l'année prochaine, même si a priori on va pas au même endroit. Mais voilà, j'ai envie de dire que j'ai au moins fini une panache correctement, quoi.
Bon, je vais tenter une provocation. Je te trouve bien vulgaire pour une fille.
Ouais. Ah ouais, je sais, mais j'ai pas ma langue dans ma poche. Ouais, je sais, ça c'est...
Ça faisait longtemps que j'attendais de pouvoir le dire, ça.
On aurait vu à l'adolescence.
Cette ultime provocation.
Non. Comme je sais qu'il y a des gens
qui...
Ah oui,
c'est vrai que quand t'as sorti Bordel à la queue, on sentait bien que tu marchais sur des œufs là, hein. Enculé.
Je vais pas faire écouter ce podcast à ma mère, par exemple, tu vois, parce qu'elle va dire qu'effectivement je suis trop vulgaire pour une fille et que je t'ai mieux éduquée que ça. Mais je m'améliore, hein, parce que moi, quand j'étais ado, j'avais une feuille au mur où chaque fois que je disais une insulte, je devais mettre 50 centimes. Hein.
Et donc là, maintenant, ta mère, elle est en retraite aux Bahamas.
Non, mais elle aurait peut-être pu si on avait continué le système, quoi.
Moi, par contre, je me rends compte qu'il faut que j'arrête de dire ces trucs-là parce que le jour où on va me dire, ma mère est décédée l'année dernière pendant le Covid, eh ben, j'aurais bien l'air d'un con. Donc, il faut absolument que j'arrête ce genre de réflexion parce qu'un jour, ça va m'arriver, c'est sûr et certain. Donc, c'est pas marrant du tout, bien entendu. Donc, il faut que je me modère quand même. Donc, il faut faire attention quand même.
Mais c'est dur de se modérer quand on raconte des choses qui nous tiennent à cœur. Hein. Parce que moi, je me rends compte, donc t'es pas la première personne à qui je raconte ce qui m'est arrivé à Panache. Et à chaque fois, j'essaye de faire attention au vocabulaire, mais à chaque fois, il y a des mots qui ressortent parce que ben voilà, c'était une expérience assez intense finalement pour moi. Et d'en parler, ben j'en parle un peu, pas avec émotion, mais c'est avec mes tripes qui parlent. Et ça, c'est moi naturel, c'est un petit peu des mots à gauche à droite qui peuvent faire.
T'inquiète pas, ici, on a vu bien pire. T'inquiète pas pour ça. On en a vu d'autres, des vertes et des pas mûres. Bon, du coup, tu regrettes un petit peu quand même. Tu regrettes, hein, parce que là, t'essayes de donner bonne figure.
Si
oui, mais j'ai appris, et puis mes genoux, et puis mes tendinites, et puis machin. Mais en fait, tu regrettes.
Ouais.
Parce que tu savais que t'aurais pu aller au bout, et puis même si t'allais pas au bout,
parce que...
Tu serais allé plus loin. Et puis quand...
Ouais, en fait, c'est ça, parce que j'avais tellement hâte d'aller visiter l'Italie aussi, parce que moi, c'est ça qui m'intéresse, c'était d'aller voir du pays. Et je me dis, alors je peux toujours y aller, mais c'était l'occasion, c'était cadré. Et je me dis, j'aurais tellement dit, je suis passé près de Milan, je suis passé près de Gênes, je suis passé en Suisse, j'aurais fait toute la côte. Là, il y avait l'air d'avoir une piste cyclable le long de la côte magnifique avec des vues. Enfin, Google Street View avait l'air de ne pas rendre justice à la beauté du paysage, mais tout ça, genre. Parce que du coup, évidemment, j'ai regardé les photos et les vidéos des autres concurrents. Et il y a des moments où j'ai regretté, quoi. Vraiment, j'ai vu les photos, j'ai dit, ça, j'aurais voulu le voir de mes propres yeux. Et donc, maintenant, je me dis que c'était juste, finalement, vraiment, j'ai choisi la facilité. Alors que moi, si je fais de l'ultra, c'est aussi pour me découvrir et me sortir de la facilité, de dire, là, je rentre, c'est plus facile d'arrêter, quoi. Non, il fallait continuer. Voilà. Donc, ouais. Clairement, je regrette, je sais que c'est peut-être pas un état d'esprit à avoir, mais j'aurais au moins pu continuer au moins cette journée-là, et puis on aurait vu la journée d'après, et puis un jour à la fois, quoi. Et en fait, c'était plus simple de dire non.
Ce qui est dommage, c'est que tu as oublié pourquoi tu le faisais.
Ouais, en fait, c'est ça. Je pense que c'est vraiment ça. C'est juste me dire, vraiment, c'est plus simple d'arrêter alors qu'en fait, je suis là pour me dépasser.
Pour voir l'Italie.
Je suis là pour me découvrir.
Pour voir l'Italie.
Je suis là pour
tout simplement.
Me challenger. Je suis là pour voir l'Italie. Franchement, quand j'ai vu la carte, c'est voir l'Italie, la Suisse. Et voilà, et aller jusqu'à Nice. Parce qu'alors après, il y avait aussi le truc, c'est que comment j'allais rentrer de Nice. C'était un Nice-Paris en train de nuit. Moi, j'ai jamais pris de train de nuit. J'avais trop hâte d'essayer ça aussi. Et du coup, j'ai pas fait non plus, quoi. Donc,
Bon, c'est pas grave, tu vas pas te flageller non plus et puis courir nu dans les épines, c'est pas grave,
non,
c'est du vélo aussi, hein. T'auras d'autres occasions, hein.
Non, Voilà, c'est ça. Après, je me dis, ça reste, il y a d'autres occasions. J'ai quand même appris des choses. Et alors, j'ai quand même mon premier bivouac sauvage en mode OKLM, quoi. Donc, franchement, c'est, pour citer le pote qui me le dit, j'ai dormi entre le chêne et le marronnier et je me suis pas posé de questions. Quand j'étais aux Pays-Bas, je pensais que j'arriverais à le faire. Et j'ai jamais su, pas le moindre soir, je me suis dit, ce spot a l'air pas mal, je me sens à l'aise. Jamais, jamais. Pendant 10 jours. Là, le premier soir, paf. Et donc, pour moi, ça, c'est une victoire en soi. Et je suis très contente de ça. Et du coup, là, j'ai hâte de recommencer, de trouver des spots. Mais je me sens plus à l'aise en France pour le faire, visiblement. Donc,
bon, eh ben, c'est pas grave. Tu vas rassembler les pièces du puzzle. Et puis, un jour, tu vas nous sortir l'épreuve parfaite. Quand tu me dis...
Voilà, c'est ça.
Mais tu crois
en attendant,
quoi,
je prends de l'expérience, quoi.
On fait quoi, tous? On échoue toujours un petit peu et ça me fait marrer, ça, quand on entend « Ouais, j'ai abandonné, c'est un échec, je suis dégoûté, je suis trop nul. » Mais on échoue tous les jours. Moi, ce matin, enfin tout à l'heure, à 17h, j'ai pas échoué parce que j'ai pas loupé mon train, mais j'ai failli. Et on échoue à faire cuire correctement un truc, on échoue à arriver à un rendez-vous à l'heure. Et on échoue tous les jours, hein. On échoue tous les jours un petit peu. Et il y a des échecs qui sont plus cuisants que d'autres. Il y a des échecs dont on se souvient beaucoup plus que d'autres. Et on ne se souvient pas forcément des rendez-vous qu'on a loupés. Mais on apprend toujours un petit truc. Et c'est pas la fin du monde.
Mm-hmm. Non, mais c'est ça en fait. Donc moi, là, il y a quand même moins d'un mois que ça s'est passé. Donc je pense que je suis toujours dans cette phase où... je regrette, même si je commence à me dire qu'effectivement, c'est pas la fin du monde, il y aura d'autres occasions. Et puis voilà, j'ai fait d'autres choses en rentrant. Là, je me suis fait un premier mini-trip de 2 jours, une nuit sautante. C'est très bien aussi, finalement. C'est juste que ça ira mieux avec le temps. Mais d'un autre côté, j'ai quand même appris plein de choses. Et ça, ça pour moi, ça a quand même beaucoup de valeur aussi de dire tout ce que j'ai appris.
Tu reviendras ou tu feras autre chose, quoi. Et puis ce que tu as appris, tu le mettras en application ailleurs.
Ouais.
Tu te fais une.
Ouais.
En plus, et c'est ce que
et
tu viens, c'est ce que tu es en train de faire,
aussi,
figure-toi.
Parce que en fait, c'est vrai via ce podcast, mais en fait, donc avec ma course aux Pays-Bas, déjà ça a attiré pas mal de gens. J'ai des gens qui m'ont envoyé des messages pour dire moi ça m'intéresse, comment est-ce que je pourrais faire. Et du coup, ici, le fait d'avoir arrêté Panache. Enfin, je peux expliquer aussi pourquoi. Et du coup, peut-être qu'il y a des gens qui vont soit se reconnaître ou dire « Ah ben moi, j'ai déjà fait ça. » Ou « Si » ou « Ça » ou « Je ne me verrai pas faire ça » ou « Je ferai ça autrement. » Mais du coup, ça permet la discussion. Et donc finalement, le fait d'avoir arrêté, c'est une transmission, c'est une passation d'informations. Et que du coup, quand j'ai des discussions avec des gens, j'apprends des nouvelles choses aussi. Et donc, c'est pour ça que je dis aussi que c'est pas vraiment un échec, parce qu'il y a des choses positives qui en ressortent. S'il n'y avait que du négatif qui en ressortirait, là je l'aurais vraiment en travers de la gorge. Mais ici, je dirais qu'il y a quand même beaucoup plus de positifs qui ressort que de négatifs. Et du coup, la leçon est prise. Et on va, je vais continuer à essayer d'en tirer du positif. Et
bon, alors le retour de Baptistine avec un dossard, si on peut dire, c'est pour quand?
Alors, donc c'est comique parce que niveau ultracyclisme, donc j'ai ce 300 km le 21 juillet et il est un peu particulier dans le sens où j'ai jamais fait 300 km d'affilée sur une journée. Et il est particulier aussi parce que le 21 juillet, donc c'est la fête nationale belge, et la trace qu'on nous a donnée va former la forme de la Belgique.
Tout à l'heure, je te parlais de Clémence, elle l'a fait la semaine dernière.
Donc,
elle s'est amusée à le faire pour ça, sa séparation finale à la RAF. Enfin, et elle l'a fait la semaine dernière. Elle m'avait appelé 2-3 jours avant, elle l'a fait.
Ok. Ok,
génial.
Moi, je fais ça le 21 juillet. On est censé avoir de 6h à 23h, on fait ça. Donc, surprise, on verra ce que ça donne. Et au pire, comme me disait une autre pote qui se lance là-dedans aussi, même si je finis pas dans les temps où il sera passé minuit, j'aurais vécu une aventure.
Quelle importance.
C'est exactement ça, quoi. Voilà. Mais c'est vraiment pour le fun, quoi. Enfin, le fun. Faudrait être au boulot le lendemain matin.
Alors, donne-moi
mais
une bonne raison.
Fun, quoi, je veux dire.
Non, vas-y.
Et alors, niveau
vas-y,
vrai dossard.
Finir, excuse-moi.
Ouais. Le vrai dossard, on a à Bruxelles, maintenant, on a une course qui s'appelle le Bruxelles Tour. Et donc, ça, c'est le 29 août. Et donc là, on reçoit un dossard avec une puce. Et bon, moi, je suis inscrite dans la catégorie des gens qui roulent pas très très vite. Mais je fais ça, je fais les 40 km. J'ai fait ça l'année passée en 1h35. Et donc, l'idée, c'est de faire en 1h30 cette année. Et donc là, c'est une vraie course avec speaker. Les rues sont bloquées. Il y a les flics, il y a du public qui t'applaudit alors qu'ils te connaissent pas. Et tu découvres ta ville, tu vas rouler dans les tunnels des voitures où tu peux pas aller, des choses comme ça, quoi. Donc ça, c'est les deux prochains events, on va dire. Et après ça, d'ici à octobre, j'ai des mini-trips de planifier. Donc c'est à chaque fois 2 jours ou 3 jours avec des nuits sous tente pour vraiment me changer du quotidien et avoir l'impression de partir en vacances sans prendre...
Donne-moi une bonne raison pour laquelle tu n'arriverais pas à boucler les 300 km. Réfléchis bien. Hein. Une bonne raison. Ou deux, hein, mais pourquoi tu n'y arriverais pas ? Objectivement, en raisonnant, pourquoi tu n'y arriverais pas ? Bah alors ?
Il n'y a rien qui m'en empêcherait. Honnêtement, je pense qu'il n'y a rien. C'est juste que, tu vois, c'est 300, c'est un nouveau palier, quoi. Moi, j'ai déjà fait 240 d'affilée sur la même journée, toute seule.
Et qu'est-ce que ça change ?
300, c'est le nouveau palier, quoi.
Objectivement, pareil, en raisonnant, si on raisonne en termes mathématiques, qu'est-ce que ça change ? C'est 60 km de plus à ta moyenne ? C'est, disons, 3 heures de plus, disons 4 heures. Qu'est-ce que ça change vraiment ? Est-ce que tu es vraiment, quand tu as fait 10, 12 heures de vélo, est-ce que tu es vraiment à 4 heures près ? Si tu remets du carburant et que t'es pas en hypo totale,
qu'est-ce que ça change
de refaire 60 km, à part que c'est un palier psychologique. Mais mathématiquement, qu'est-ce que ça change vraiment ?
C'est juste, ça change rien en fait. Non, c'est vraiment un palier psychologique, mais sinon,
c'est
quand même un palier super
300,
classe.
C'est classe. Moi
ça
aussi,
me
j'étais
botte
content.
Bien. C'est 300, c'est classe, quoi. Enfin, je vais claquer un 300 sur une journée, quoi. Ça, j'ai hâte de pouvoir le dire aussi. Donc, ça motive, quoi. Mais non, rationnellement, il n'y a rien qui m'empêcherait de le faire. Maintenant, j'ai quand même l'expérience de savoir comment je dois boire et manger pour des épreuves comme ça. Et donc, a priori. À moins que je me fasse écraser par
C'est sûr que s'il n'y a pas de perdu sur le parcours, tu iras au bout. Par contre, attention, les paysans de Belgique, là, rentrez vos animaux, Baptistine débarque. Donc, rentrez les poules et les boucs, parce que sinon, elle ne verra pas l'arrivée.
Voilà. Évitez. Ouais, on va éviter de tomber dans le fossé. Ça, franchement, ce n'est pas une super top expérience, parce que les orties m'ont quand même chatouillé jusqu'à minuit. Mais quand je dis aux gens, je suis tombé dans un fossé,
surtout à cause d'une perdrix.
Et moi je suis là.
Là franchement.
Mais c'est ça. Et alors après expliquer en plus que t'as eu peur avec un animal, les gens me disent mais tu l'as pas vu venir. Ben non, ça a surgi des fourrés. La peur m'a saisi quoi. Ça m'a pris 3 secondes et moi j'ai fait claque à droite et fini quoi. T'as déjà été saisi. Alors les gens te regardent. Ouais c'est vrai, j'ai déjà été saisi. Ben c'est comme quand il y a une bagnole qui déboule du coin que t'as pas vu. Sauf que là c'est un animal. Picoré
à mort par une perdrix très très méchante.
Voilà, c'est tout. Ben ça va, elles ont. En fait, je crois qu'on s'est fait peur mutuellement. Du coup, elles sont pas venues voir ce que je foutais dans le fossé, ce qui m'arrange parce que là, je sais pas comment j'aurais réagi. Tu vois, je suis quand même quelqu'un de la ville finalement, ouais. Donc les animaux, ça me connaît pas tant que ça. C'est très joli dans les champs, mais viens pas trop près de moi.
Quand tu me dis, je roule pas vite. Et là, j'ai roulé à 21, 20, alors que ma vitesse c'est plutôt 18, 19. Et il faudrait que je m'améliore, de ce point de vue-là. Richard apprend à parler, à faire 4 mots d'affilée, tout ira bien. Comment comptes-tu t'y prendre ?
C'est le
voilà,
soir.
Je suis content, je peux fermer ma gueule pendant 10 minutes.
Alors en fait, j'ai pas de plan établi parce que pour moi, améliorer ma vitesse, ça va passer par être peut-être plus légère sur le vélo, donc avoir moins de brol. Donc ça, c'est mon côté cyclotouriste qui reste quand même encore un petit peu. Prendre moins de choses pour avoir vraiment le strict minimum et dire, ben voilà, là, tout ce que j'en ai vraiment besoin. Et donc, c'est du poids que je sais que je tire, mais en même temps, ben, il y en a besoin, donc tu peux pas faire autrement. Et je me dis que peut-être je devrais, j'en sais rien, hein, mais trouver des gens qui roulent plus vite que moi et juste essayer d'accrocher leur roue, quoi. Et de rouler comme ça et de voir ce que ça donne pour voir si rouler plus vite, déjà, ça me plaît ou pas du tout. Est-ce que mon rythme à moi de un peu touriste, quoi, soyons honnêtes, est-ce que ça me convient finalement et que, oui, du coup, je suis consciente que pour faire 200 km, il me faut plus de temps que les autres. Mais d'un autre côté, effectivement, quand tu as fait 12 heures sur le vélo, tu peux encore en remettre 3 et tu auras fait la même distance qu'eux, mais juste en un peu plus de temps, quoi. Donc, je sais pas encore, j'ai pas de plan établi, mais l'idée, c'est ça, c'est de voir un petit peu avec des gens qui roulent plus vite, de voir si ça me plaît et de voir niveau calories, tout ça, ce que ça bouffe. Parce que quand je vois tout ce que je dois déjà manger sur 10 jours de course ultra-cyclisme, c'est déjà énorme. Si en plus de ça, je dois en manger plus parce que je roule plus vite et donc je crame plus vite le fuel, est-ce que ça m'intéresse de devoir manger encore plus et boire encore plus, quoi. Donc, je suis encore en phase. Je dois découvrir ce qui me plaît et voir comme ça. Et... Enfin, j'ai pas de plan bien établi, quoi.
Super.
Au feeling, complètement au feeling.
Ça me convient comme réponse. J'adore. Non, mais c'est vrai, hein. Attends,
Moi, je suis comme ça. Je fais beaucoup au feeling et du coup, c'est peut-être pas la manière la plus efficace. Mais en attendant, je découvre à mon rythme. Mais alors, j'ai aussi, je pense que j'ai pas forcément un esprit de compétition comme d'autres pourraient avoir et disent, bah voilà, il faut claquer 25 de moyenne pour faire 300 km sur 24 heures ou plus que ça. Moi, je le fais au feeling parce que l'idée, c'est quand même, c'est à chaque fois de finir ce que je commence. Et du coup, bah voilà, même si les Pays-Bas, j'ai mis 13 heures de plus, bah j'ai fini. On est quand même que 47% à avoir fini cette année, qui est la pire année niveau météo que ce qu'ils ont jamais eu en 4 ans, quoi.
Et bah donc, c'est ce que retiendra l'histoire. T'as fini.
Voilà. Voilà, j'ai fini selon mes conditions. Alors, ça n'a pas été facile. J'ai dû quand même faire la paix avec moi-même en voyant que je finirais pas à temps. Mais j'ai dit, je veux finir parce que le physique va bien, le vélo va bien, et c'est juste du vent. C'est du vent, c'est de la pluie, bah, tu sais rien faire contre ça, donc tu poses sur tes pédales, et t'y vas. Et tu regardes les paysages, et tu regardes la mer, et tu joues dans les dunes. J'ai vu des yaks dans les dunes aux Pays-Bas, quoi. Je veux dire, je n'y attendais absolument pas, donc ça a fait ma journée. Et voilà, la journée était passée. Un yak
dans les dunes. Non mais alors là, t'étais passé à Amsterdam avant ou pas? Baptistine ? Ben ouais, je me demandais si si t'étais passé à Amsterdam avant d'aller voir les yaks sur la plage.
Alors, en fait, donc je suis passée vraiment à la périphérie d'Amsterdam, dans le Waterland. Ça aussi, c'est une route, il ne faut pas tomber à côté parce que tu as de l'eau à gauche, tu as de l'eau à droite. Hein. Ça, c'est... Ça aurait pas été le même type de fossé que ce que j'ai eu à Panache. Hein.
Ah, c'est
mais
pire.
Non, j'ai
ah,
plus pire. Traversé Rotterdam.
C'est pas le même genre de choses.
C'est un peu de nuit et le mat. J'ai détesté.
C'est moche.
Non, j'ai détesté c'est moche, Rotterdam. Franchement, j'ai pas kiffé du tout. mais sinon, il y a des... Enfin, je veux dire... Qu'est-ce que j'ai traversé d'autre ? Groningen, j'ai adoré ça. Au nord du pays, là, j'ai bien aimé. Den Helder, c'était en heure de pointe, donc fatalement, t'as pas la même sensation que la ville. Enfin, la ville bourdonne, quoi. Et toi, tu passes en mode, tiens, je fais un truc à côté. Et tous ces gens, ils sont en train de se faire chier pour aller au travail dans les embouteillages. Mais j'ai vraiment, par contre, tout ce que j'ai bien kiffé, c'est toute la côte du nord au sud, là. À gauche, nord, sud, ouest, à l'ouest, la côte ouest, ça j'ai vraiment bien adoré. Je connaissais déjà un petit bout, mais toute cette partie dans les dunes, ça a vraiment fait... J'étais en vacances, j'étais plus du tout en train de faire 1900 km en 10 jours. Ça montait, ça descendait, il y avait du sable, il y avait des gens, il y avait des animaux, ça, c'était vraiment... voilà.
Enfin, c'était quand ça ?
C'est des souvenirs comme ça. C'est... Du coup, ça c'était le départ le 30 avril et j'ai fini le 10 mai. Donc c'était il y a déjà 2 mois, 3 mois, 2 mois.
Et la panache, c'était début juin.
Ouais, c'est ça. Donc on est parti le 13 juin et moi d'accord. J'ai abandonné le 14.
Est-ce que tu n'as pas l'impression que peut-être tu n'avais pas bien récupéré ?
Alors ça, c'est un truc que mon beau-frère a soulevé. Et quand il me l'a dit, je me suis dit, mais en fait... Ouais, peut-être, mais ça m'a vraiment pas venu à l'esprit. Parce que j'ai fini donc ma race around Netherlands le lundi. À minuit quart, j'étais à la maison le lundi. J'avais pris congé jusqu'au vendredi. Et le samedi, j'étais de retour au boulot pour une petite tournée. C'était que 25 km, genre 20 colis. Donc, c'était pas une grosse journée. Et puis j'ai repris normal, mais des semaines normales, moi au boulot, c'est 200 km avec le vélo cargo chargé, avec parfois la remorque, parfois pas. Et donc j'ai fait ça, j'ai travaillé normalement jusqu'à Panache, j'avais pris le congé le 12, quoi. Donc avant Panache, j'avais quand même déjà fait aussi quasi refait 1000 bornes avec le vélo cargo. Et donc moi j'étais là, j'avais l'impression, j'ai dormi, j'ai mangé, j'ai récupéré. Mais mon beau-frère m'a dit, est-ce que peut-être que tes muscles n'ont pas eu... T'as l'impression que ça a été, mais est-ce que tes muscles n'avaient pas tout à fait récupéré des choses comme ça? Est-ce que c'était pas trop proche? Et quand il m'a dit ça, j'ai fait, mais en fait, t'as peut-être pas tort.
Oui.
Mais on choisit pas les dates. On choisit les événements auxquels on participe, mais on choisit pas les dates. Et du coup, niveau récupération... Il y a peut-être un travail que je dois faire pour essayer de voir la récupération des muscles plus en profondeur, quoi. Si je veux réenchaîner des choses comme ça à un mois d'intervalle, il faut peut-être que je regarde à juste peut-être pas dire « voilà, je suis couché dans mon lit, dans mon canapé, ça se passe, quoi. » Donc voilà, c'est aussi une piste à explorer de choses que je dois peut-être apprendre. Il faudrait peut-être que j'aille voir un peu un médecin du sport pour avoir son avis là-dessus. Je sais pas.
Tu verras bien.
Faut tester. C'est encore des choses que je
dois apprendre. Ma petite Baptistine, si on peut dire. Je pense qu'on a bien déblayé le terrain déjà, si on peut dire aussi. Est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter,
ouais,
ou quelque chose que j'aurais oublié de te demander?
Là, il n'y a rien comme ça qui me vient.
C'est pour
juste,
ça on y vient là.
Il y a la minute de solitude après ou pas, où tu changes le système. Ouais. Ok, parce qu'alors, j'avais une autre question, c'est quand est-ce que ce sera diffusé ce podcast? Ok, alors ça va. Je vais rajouter des choses, mais je les garde pour ma minute de solitude du coup. Parce que j'avais un peu réfléchi en écoutant les autres podcasts et j'aimais bien ce principe. Et il se trouve que j'ai des messages à faire passer pour notamment quelqu'un qui est actuellement en train de faire un truc d'ultracyclisme en Suède. Et si c'est diffusé demain, je pourrais lui dire écoute-le pendant que tu es en train de finir.
Par contre, je te donne une mission. Dès qu'on raccroche, tu m'envoies les coordonnées de Maximilien qui fait Giro Tour Vuelta. C'est ça?
Non, c'est moi la personne à qui je pense c'est une fille et en fait elle est occupée à faire la, je vais prononcer ça très mal, mais c'est la Sverigtumpot ou quelque chose comme ça, et c'est une traversée du nord au sud de la Suède, mais c'est en mode randonneur, donc ils ont 210 heures pour faire ça, et en fait je la suis sur Twitter et il y a des tweets qu'elle fait, je me revois aux Pays-Bas.
Mais le mec m'as parlé tout à l'heure qui fait Giro, Tour et Vuelta en mode bikepacking autonome, comment il s'appelle?
Vuelta. Lui c'est Maximilian Schnell.
Tu me trouveras son contact. Du coup, Baptistine, mille merci pour ce grand moment de rigolade.
Ouais,
mille merci pour les perdrix. Mille merci pour tout. Merci pour le short. Merci pour le t-shirt. Merci pour les pédales plates et le vélo cargo. Merci pour la bonne humeur. Mais comme toujours avec mes amis belges, je suis jamais déçu. Donc merci pour tout ça. À très bientôt. Je te laisse pour ta minute de solitude. Encore un dernier merci à Knack l'Alsacien, parce qu'en dépit de son... En dépit de son appartenance ethnique, il a l'air quand même super sympa. Donc voilà, il est parfait, c'est pas grave. Donc voilà, merci à tous. Baptistine, merci et à très bientôt. Gros bisous. Je te laisse pour ta minute. Quand t'as fini, tu te casses. Et puis voilà.
Super. Je raccroche. Ouais, j'ai compris le principe. Mais non, la première fois que j'ai entendu,
bravo.
C'est quoi ce truc? Et puis j'ai compris, donc ça va.
Allez, gros bisous, à plus.
Ouais, salut. Alors voilà, cette minute de solitude, je la dédie à Géraldine, qui est actuellement sur son vélo, qui a déjà fait 1400 ou 1500 km, quelque chose comme ça, sur 2100, je pense que c'est ça la distance. Et franchement, ça reste un exploit. Il n'y a pas à dire, faire ça en 210 heures, donc c'est 8 ou 9 jours, je ne sais plus exactement, vous n'aurez qu'à calculer. Mais c'est aussi pour moi la preuve que quand on veut faire quelque chose, et qu'on se donne les moyens, on peut faire. Parce que Géraldine, elle est française. Donc, en France, ils n'ont quand même pas vécu les confinements de la même façon que nous. Nous, on n'a jamais été emprisonnés à 18 heures et on a toujours pu sortir sur nos vélos sans limitation de kilomètres. Et donc, moi, ça a été très bénéfique dans mes préparations. Et donc, là, franchement, je suis très contente. Mais voilà, Géraldine, elle n'a pas eu ça. Enfin, tous les autres Français non plus, mais voilà, je prends Géraldine. Et donc, elle a dû faire ça sur home trainer et il n'y a quand même rien à faire. Le home trainer, ce n'est pas la même chose. Alors, elle s'est quand même enfilée un 300 km à Longchamp. Donc ça, j'étais déjà super épatée. Et du coup, ben voilà, là, maintenant, elle est en Suède où elle n'a quasi pas de nuit. Elle a eu droit au... C'est la nuit la plus courte. Ça a duré genre une demi-heure, je crois, là, quand ils ont commencé la course. Et quand je lis ces tweets, quand je vois ces tweets, c'est... T'as l'impression, en fait, de rater ton truc parce que t'es pas sûr d'être dans les délais, mais en même temps, ce que tu fais, c'est complètement ouf. Elle a fait 1300 km en 6 jours. Et bah, ceux qui l'ont déjà fait, ils savent ce que c'est. Les autres, ils doivent se dire, waouh, c'est complètement ouf. Et ouais, j'avoue que c'est complètement ouf. Mais donc, quand toi, t'es là-dedans, t'es en train de te dire, je suis en train de rater ça. Alors que t'es en train de faire un truc de malade. Et du coup, ça rentre dans ta tête et voilà, Géraldine, si t'as l'occasion d'écouter ce podcast pendant que t'es en train de finir ça, continue, tu peux le faire, il n'y a pas photo, tu peux le faire, même si tu dis que tu n'as pas assez d'entraînement et que tu as mal géré ton sommeil, c'est pas grave, c'est comme moi, tu prends l'expérience et la prochaine fois, ce sera que mieux, ce sera, enfin, il n'y a que du positif là, qui peut en ressortir, mais je suis consciente que tu dois quand même en baver parce que tu as quand même du dénivelé que moi, je n'avais pas aux Pays-Bas et tu as quand même des moustiques que je n'avais pas non plus, donc voilà, tu fais ta course à ton rythme parce que finalement, c'est la course contre toi-même, ce n'est pas la course contre les autres Et voilà, tu vas finir, je suis sûre que tu vas finir, il n'y a pas à t'inquiéter, quoi. Et alors, pour tous les autres qui nous écoutent, quel que soit le type de vélo que vous faites, parce que ici, donc, Spotzel, c'est quand même beaucoup des cyclistes, aventuriers, bikepackers et tout ça, mais quel que soit le type de vélo, si vous partez en mode camping, si vous partez en mode hôtel, que vous fassiez 20 km par jour, 50, 100, 200, le but, c'est de kiffer. C'est kiffer quand on est sur son vélo. Et ça, personne ne pourra jamais vous l'enlever. Donc, il n'y a pas à vous comparer. Moi, j'ai beaucoup de gens qui m'ont envoyé des messages. Jamais je pourrais faire ce que tu fais, mais on ne vous demande pas de faire ce que je fais. Moi, je l'ai fait parce que je kiffe. Mais faites ce que vous kiffez. Partez en vacances comme vous voulez partir en vacances ou partez pas en vacances. Peut-être que ça ne vous intéresse pas de partir en vacances à vélo. Mais voilà, trouvez votre façon de faire du vélo avec les équipements que vous voulez, avec les vêtements que vous voulez, vraiment tout comme vous voulez. Et quoi qu'en disent les bien-pensants, ben, tant que vous adorez ce que vous faites, ben, continuez, quoi.